Bon, on y va?
Allez.
Allez, faut y aller.
Hein. Ta-da-dun, ta-da-dun. Comment on lui coupe son micro, lui?
C'est pas exactement ça, mais bon.
Ouais, bon, alors moi je suis là pour dire que les jeux de société c'est un peu de la merde.
Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes toujours le 7 mai 2016 et vous écoutez toujours le 76e épisode de Proxy Jeux, c'est donc la suite. Nous sommes donc toujours en direct du week-end Proxy Jeux. Je suis toujours avec Cyrus, salut Cyrus.
Salut.
Avec Flavien.
Salut.
Flavien, toujours ton podcast
Playtime, Hearthstone et autres.
Je suis avec Peggy.
Coucou.
Tu es revenu pour cette nouvelle semaine.
Même oui, si c'est ça, j'ai été gardée pour la deuxième semaine.
Et on reçoit aussi Yann. Salut Yann.
Bonjour.
Et Stéphane.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, c'est vrai qu'il fait soir.
Et donc, on notera que c'est un week-end d'une semaine.
Voilà. Ça, et on enregistre pendant une semaine. On remercie toujours la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg. Et surtout, une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et toujours un grand merci à nos Patreons de soutenir ce podcast et d'avoir participé à ce week-end.
Alors, ce numéro, il est un petit peu particulier. On a souhaité en fait vous réunir autour de la table pour parler scénario. C'est pas très commun chez Proxy Jeux. Donc Peggy Chasney, en fait toi tu as fait le scénario Asylum.
Oui, c'est ça, en fait j'ai participé avec Manu. Je pense que j'ai dû
Daniel être Rosoy.
Voilà, dans les premiers à tester les toutes premières versions de Time Stories, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait.
OK, et à côté donc on reçoit Yann Gentil et Stéphane Anctil qui alors Stéphane Anctil a rédigé une enquête pour Sherlock Holmes, qui a été éditée, qui est l'enquête des masques africains, c'est bien ça?
Oui, on en parlait dans le 44B, bientôt la préhistoire du podcast.
Ah la vache, hey, t'as retenu
le numéro
du podcast.
Okay.
Bah, je me le réécoute en boucle quand j'ai des crises d'angoisse pour essayer de retrouver un peu d'estime de moi.
Ah ok. Et Yann, toi tu as rédigé donc des scénarios non publiés. Donc en amateur.
Oui, certains pour Sherlock Holmes, il y en a deux qui ont été mis sur le net. Et puis je suis en train d'essayer de faire un scénario aussi pour Time Stories.
OK. Et alors tu peux juste nous citer les scénarios que tu as déjà mis sur le net pour Sherlock Holmes.
Alors pour Sherlock Holmes, il y a l'affaire du pendu et puis l'affaire Diavolo.
Diavolomante.
Non, pas Diavolomante, c'est un trapéziste, c'est un automate du magicien Robert Houdin.
T'as pas peur des procès Asmodée, hein, ils ont sorti un Diavolo, hein, un petit jeu.
Alors je pense que ça existait bien avant ce nom-là, Robert Houdin, ça date de 1800 et quelques, donc voilà.
Mais Asmodée était déjà là et dominait le monde, tu t'en rappelles pas. Donc toi t'es l'homme de la transition entre Time Stories et Sherlock.
Voilà, c'est ça, exact.
Ok, donc on a une belle équipe là pour parler scénario ce soir. Alors Peggy, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de comment ça s'est fait déjà la rencontre avec Manuel Rosoy pour concevoir ce scénario?
En fait, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on jouait beaucoup, on faisait beaucoup de jeux de rôle ensemble il y a fort longtemps.
Il masterisait tes parties, tu masterisais ses parties.
On a joué beaucoup ensemble à Ars Magica.
En tout bien, tout honneur, bien sûr.
Oh non, ici on ne pipelise pas.
Hein. On a longtemps joué ensemble, oui. Et par un hasard, je me suis retrouvée à tester, quoi, il m'a invité pour tester un jeu qui était la base de Time Story avec le scénario qui était déjà son scénario de Heroic Fantasy, La Prophétie des Dragons.
D'accord.
On a passé une excellente soirée, on s'est bien marré et puis En fait, il cherchait vraiment à retrouver ce qu'il aimait dans le jeu de rôle, c'est-à-dire réunir un groupe de personnes pour pouvoir avoir la sensation de vivre une aventure, passer un bon moment, mais sans avoir forcément toute la préparation du jeu de rôle et toutes les contraintes qui vont avec. Donc, c'était vraiment son but au début. Moi, le jeu m'avait bien plu, et puis ça, dans les jours qui suivaient, ça m'a un peu titillé. J'avais des idées qui venaient. J'ai commencé à écrire un scénario ambiance Maléfice. En fait, Maléfice, c'est un jeu de rôle qui est assez ancien, des années 80, un jeu d'ambiance. Et voilà, je suis partie.
Ça doit être
sur
un film érotique aussi, je pense.
Mais nous n'avons visiblement pas la même culture que toi.
Et donc je suis partie sur cette idée de jouer dans un asile en reprenant un peu les clichés du genre. Donc j'avais pris au début pour m'aider à écrire un petit logiciel qui fait des squelettes pour faire des livres dont vous êtes le héros. Et dans les premières versions de Time Story, qui n'avaient même pas de nom à l'époque, il y avait l'idée qu'il fallait avoir que 60 cartes, donc c'était très court.
Ah oui, il y avait déjà il s'était déjà projeté dans l'édition, quoi.
C'est des paquets l'idée de sortir ça sous paquet de cartes. Et voilà, je lui ai envoyé une première trame qui lui a plu. Il s'en est servi pour faire des tests parce que c'était plus court que le projet que lui avait sur le scénario d'Heroic Fantasy. Et finalement, il a beaucoup développé ce scénario-là pour faire les tests. Et puis c'est, à ma grande surprise, celui qui s'est retrouvé dans la boîte quand il est sorti.
D'accord,
voilà.
Ok. Donc, alors toi, t'as plutôt un historique de rôliste. Donc, tu nous expliquais dans l'épisode précédent que tu étais ludothécaire. Là où tu pratiques peut-être plus le jeu de société en ludothèque que le jeu de rôle.
Voilà, moi, je suis rôliste depuis toujours. Mais je fais aussi bien du jeu vidéo que du jeu de société, que du jeu de rôle. Et c'est vrai que le plaisir qu'on a dans le jeu de rôle est quelque chose de particulier. Et je pense que quand on a fait du jeu de rôle, on essaie toujours un peu de retrouver ça. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans Time Stories, et c'est ce que j'ai essayé de faire en voulant aussi raconter une histoire, quoi.
Ah, le parallèle vraiment avec le jeu de rôle, quoi.
Voilà.
Mais pour le coup, c'est vrai que l'idée d'hybride entre jeu de plateau et jeu de rôle est souvent présentée. Et par contre, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de joueurs de jeu de rôle qui trouvaient qu'on s'éloignait quand même pas mal du jeu de rôle, plutôt vers... il y a eu plein de termes, hein, l'exploring, le jeu dont vous êtes le héros, etc. C'est quoi, toi, qui te fait dire que Time Stories se rapproche du jeu de rôle? C'est les sensations, parce que finalement, t'as quand même une espèce de restriction de la liberté qui est mécanique et qui le fait rentrer dans la catégorie jeu de plateau, alors que le jeu de rôle, selon les jeux de rôle, selon les maîtres du jeu, selon les systèmes, mais t'as quand même peut-être plus de liberté que dans Time Stories, d'un point de vue des possibilités, des potentialités.
Alors, c'est sûr que Time Stories n'est pas un jeu de rôle, hein. C'est un jeu de plateau. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est un jeu de plateau dont vous êtes le héros. C'est pour moi ce qui définit mieux le jeu. On n'a pas effectivement de liberté comme on a au jeu de rôle où on peut tout se permettre parce que le scénario est déjà écrit, scripté et qu'on peut pas en sortir. Après,
c'est un peu un effet couloir. Où on est quand même limité, et dans le jeu de rôle, c'est vrai que ça a été parfois comparé à si le maître du jeu veut que tu tournes à droite, finalement tu pourras aller où tu veux. À un moment donné, tu finiras par tourner à droite, quoi.
Que oui. Tu tournes à gauche ou à droite, ce sera la même salle, de toute façon.
Voilà. Par contre, dans ce qui va se passer autour de la table, la manière dont les gens vont discuter, moi j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en ai compris, et puis le fait que dans Time Stories, quand l'équipe va explorer un lieu, tout le monde ne voit pas la même chose. Certains vont dire, voilà, moi je vais regarder le tableau et vont lire la carte qui correspond. Quelqu'un d'autre va parler à un personnage, va lire la carte qui correspond. Donc effectivement, le scénario est déjà écrit à l'avance, mais toute la partie jeu de communication qu'il y a entre les joueurs, la manière dont on va interpréter les choses, donc on va comprendre les énigmes et dont on va les partager, pour moi c'est du jeu de rôle, avec en plus la possibilité pour ceux qui en ont envie de rentrer vraiment dans leur personnage et de jouer le personnage à fond. Et c'est aussi ce qu'on a voulu faire dans Asylum, en donnant la possibilité de jouer vraiment des gens de l'asile avec des dérangements, de pouvoir retrouver, pour ceux qui avaient envie d'avoir ce plaisir, d'interpréter le personnage. Après, on peut jouer sans.
Ça, c'est quelque chose, on va pas spoiler, mais de manière générale, c'est vrai que dans Asylum, les gens découvrent vite qu'il y a 8 personnages, je crois. Et
oui.
C'est certains scénarios en ont que 4, sans spoiler ni rien. Et le côté différents personnages, ça a un aspect, on peut changer de personnage entre les runs, que ça a un intérêt ou non, peu importe. Mais c'est vrai que pouvoir avoir cette possibilité de changer de réceptacle, c'est quelque chose d'assez qui manque parfois dans les autres scénarios où justement on ne le peut pas, je trouve. Je trouve que les scénarios où on peut, ça, ce petit changement, ça donne un intérêt quand même, que ce soit d'un point de vue des capacités, mais surtout de comment on peut se sentir dans le personnage. Ce qui est amusant, c'est que souvent un joueur qui se sent bien dans le personnage va pas en changer finalement, même s'il en a la possibilité. Mais j'ai trouvé que la possibilité de changer justement était pas mal, moi.
Bah moi c'est ce que j'aime aussi, quoi. En tout cas, quand je fais du jeu de rôle, j'aime bien jouer des personnages qui ont des défauts ou des tics de langage ou des névroses, et le fait de jouer des gens qui sont dans un asile, voilà, ça offrait des possibilités de jeu assez rigolotes et différentes, quoi.
Oui, en fait, c'est marrant parce que l'histoire du jeu de rôle comparé à Sherlock Holmes Detective Conseil aussi est un jeu de rôle, souvent un jeu de rôle qu'on peut faire en un mix entre livre dont vous êtes héros et jeu de rôle. Et moi, ça me choque aussi parce que je trouve que dans le jeu de rôle, effectivement, on incarne quand même un personnage. Alors là, dans Sherlock, c'est encore pire parce que le joueur est dans le jeu sous une forme d'un avatar. On incarne une espèce d'équipe autour d'un personnage qui s'appelle Wiggins dans le jeu. Donc les témoins vont s'adresser à Wiggins. Mais en fait, autour de lui, il peut y avoir une bande indéfinie qui représente les joueurs, qui est qu'un seul joueur ou huit. Et en fait, bon, c'est censé être la bande des irréguliers de Baker Street. Mais en fait, on incarne rien du tout. Et on demande à aucun moment aux joueurs de faire semblant d'être quelqu'un ou de voir du roleplay même. Et je trouve que c'est vrai qu'il y a une espèce d'abus de langage en disant c'est du jeu de rôle. Alors qu'en fait, peut-être parce que les gens sont habitués à associer jeu de rôle justement à liberté. Et c'est vrai que dans Sherlock, il y a de la liberté, c'est pas linéaire, on peut aller un peu voir ce qu'on veut.
Et
là, pareil, dans ta story, faudrait peut-être parler plus de jeu d'enquête, en fait.
Après, reste à définir ce que c'est le jeu de rôle, et je pense qu'on n'arrivera pas à tomber sur une définition et à tomber d'accord. Il y a des jeux de rôle, il y a des gens qui jouent sans faire aucun roleplay, il y a des jeux de rôle avec des scénarios hyper scriptés. Le jeu de rôle, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent faire du jeu de rôle en jouant à un jeu de plateau, hein. En jouant à Munchkin ou
à Puerto Rico.
Donc voilà, la définition du jeu de rôle est très complexe.
Je pense que le fait qu'on associe ça au jeu de rôle, c'est le fait qu'il y ait un scénario comme dans certains jeux de rôle, alors pas dans tous, mais il y a quand même cette histoire de jeu de rôle et de scénario dans le jeu de rôle, et comme dans Time Story et dans Sherlock Holmes, c'est un peu le côté scénario. Ce scénario
il y a pas de scénario dans
par rapport à un jeu calculatoire de cube en bois, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, c'est ça qui fait que la plupart des gens, je pense, vont faire le parallèle. C'est, enfin, en tout cas au premier abord. Après, dans Time Stories, il y a quand même le fait d'incarner un personnage qui est beaucoup plus présent effectivement que dans Sherlock Holmes.
Mais ce qui est intéressant dans Time Stories aussi, je vais faire de la pub pour Time Stories à mort, hein, mais c'est que justement chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut. C'est-à-dire que sur une même table, il y en a un qui va vouloir le jouer roleplay, un peu moins, quelqu'un qui va être plus timide, il va avoir par les mécaniques vraiment de jeu de plateau la possibilité de s'exprimer, même comme dans Mysterium finalement, quelqu'un qui veut pas discuter mais qui peut agir, et chacun va y mettre le roleplay qu'il veut. Ce qui fait qu'on retrouve pas certains problèmes qu'on peut rencontrer dans des jeux comme Petit Meurtre Effet Divers par exemple, qui est un super bon jeu, mais qui, si c'est pas avec les bonnes personnes, ça peut tomber complètement à plat. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal qu'on puisse y mettre ce qu'on veut finalement, et que ça, c'est ce qui fait pour moi que Time Stories est vraiment ouvert à peu près n'importe qui, en fait. C'est que outre la simplicité du gameplay, c'est y a pas d'inhibition, contrairement à certains, même le jeu de rôle parfois, je pense qu'il y a aussi des moyens justement de désinhiber les joueurs de jeux de rôle. Dans Time Story, je trouve que le système de jeu le permet. Mais c'est vrai ce que tu disais, je trouve que ce qui fait qu'on peut rapprocher un peu Time Story, Sherlock, le 7e continent, des jeux comme ça, il y a le côté scénario. Et de fait, en fait, le côté un peu narratif, je pense que c'est un peu là-dessus qu'on va partir sur le jeu narratif, et comment est-ce que, quelle différence on peut faire dans les jeux narratifs entre Time Story et Sherlock, qui sont dans une même veine de jeu, mais qui ont quand même leurs spécificités, que ce soit littéraire, que ce soit le visuel, etc. Juste sur Time Stories aussi, il y a plein d'autres choses. Il y a le jeu vidéo un petit peu avec la console qui donne un potentiel à peu près fou. Et il y a aussi on y retrouve plein de choses. On y retrouve du Sherlock, on y retrouve aussi un peu les escape games où il y a un peu, on incarne quelqu'un aussi dans une escape game. On est pris dans le truc. mais en même temps, on n'est pas obligé de jouer le rôle à fond. Enfin, il y a plein de parallèles et voilà.
On va revenir sur le processus créatif de, alors, sur Asylum. Tu disais, donc toi, t'as écrit un scénario, en fait, tu l'as envoyé à Manu. Et en fait, t'as eu des retours derrière, en fait, t'as retouché le
oui,
scénario.
Oui, en fait, bah, j'ai envoyé un premier scénario où il y avait les lieux, les premiers personnages qu'on jouait. En début, on n'avait pas eu tout de suite l'idée de jouer des personnages avec des dérangements, mais il y avait déjà la structure de l'asile. Il y a la plupart des salles qui sont dans le jeu maintenant étaient déjà au départ. Avec par contre la résolution était très très linéaire. Il y avait, je crois, deux chemins différents pour y aller. J'avais repris aussi forcément des mécaniques que j'avais vues dans son scénario qu'il m'avait fait tester. Lui, donc, a fait des retours. Après, on a fait plusieurs allers-retours entre les deux du jeu. Et puis, quelques mois après, il m'a invité et on l'a fait jouer. Donc, c'était assez sympa de voir les gens découvrir le scénario que j'avais écrit, puis que Manu avait mis en carte. Il s'est occupé de toute la partie mécanique, hein, et puis il a rajouté beaucoup de choses également dessus.
Ouais, parce que par exemple, toi, est-ce que toi, t'avais prévu, il y a un combat à ce moment-là, il y a des actions.
Ne pas spoiler le scénario, attention.
Ah, mais, enfin, voilà,
alors oui, moi j'avais prévu.
Il y a des jets de dés, hein, dans Time Stories, c'est pas. Voilà. Il y a des dés dans la boîte, donc.
Donc moi j'avais prévu, par exemple, là, ça va être une confrontation plutôt intellectuelle ou quelque chose d'adresse, mais j'avais pas.
T'avais placé.
Je savais pas l'échelle de dire combien il faudrait lancer de dés, puisque de toute manière le système était pas vraiment encore fait.
Ouais, d'accord, okay.
Et qu'il était en développement, mais l'idée c'était telle partie, telle rencontre va engendrer soit une discussion, soit un combat, soit.
Ce qu'on appelle génériquement dans le jeu de rôle un conflit, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais. Un jet d'adresse. Choses-là étaient. Et donc, quelques énigmes aussi, puis Manu en a rajouté pas mal.
D'accord, ok. Et alors, tout l'aspect, parce que dans Time Stories, il y a quand même une particularité, c'est l'aspect graphique. C'est-à-dire, les salles, il y a une dimension visuel.
J'ai passé beaucoup de temps à récupérer des photos sur Internet, donc on avait fait toute une première sélection de photos pour donner un aspect au personnage aussi, parce que pour moi c'est plus parlant. Même quand je fais du jeu de rôle, première chose que je fais quand je fais un personnage, c'est de mettre une image.
D'accord.
Donc les lieux. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que la serre et le kiosque ressemblent vraiment à l'idée que j'en avais, et puis aux photos qu'on avait mises. Donc j'avais trouvé pas mal de photos de 1900, et Manu avait fait vraiment le proto avec les photos qu'on avait récupérées. Okay. Mais comme l'aspect visuel de Time Story est important, il fallait qu'il y ait un visuel, quoi.
Ah, d'accord. Donc t'avais conçu aussi un peu le visuel dès le départ, quoi.
J'avais trouvé en fait une espèce de quoi. J'ai donné pas mal de ressources à Manu, qui lui s'est occupé de mettre tout en forme, parce que le problème c'est que comme tout est en carte, à chaque fois qu'il fait un test et qu'il y a quelque chose à changer, il faut tout refaire. Voilà. Donc ça, c'est moi je m'en suis pas du tout occupée. C'est vraiment un gros boulot, quoi.
Quelle chance.
Alors qu'avec Sherlock, on n'est pas emmerdé, on fait juste un Word, on imprime et voilà, quoi.
Ouais. Et tu peux nous parler de ton expérience, Yann, sur justement sur Time Stories, sur les scénarios. Toi aussi, tu conçois aussi la partie illustration, ou t'arrives
non,
à trouver
un autre
système?
Non, pas du tout. Moi, je prends juste des images sur Google Images, et puis
et le droit d'auteur, alors.
Ouais, c'est juste pour faire le proto. Hein, c'est juste pour faire le proto. Après, si jamais c'était publié, faudra qu'il s'occupe de faire les images. Ça, c'est pas un truc que je sais faire. Donc, moi, je m'occupe. Ce qui m'intéresse, c'est plus la mécanique, c'est plus de faire des énigmes. Et l'idée de départ, elle est partie simplement en lisant les règles du jeu. J'avais fait aucun scénario, puis j'ai eu une idée d'utiliser le paquet éléments d'une certaine façon. Je vais pas dire comment, parce que sinon ça va tout spoiler, mais c'est un peu le problème. On discute de choses, puis on peut rien expliquer.
C'est la com du secret.
Mais en fait, je suis parti de là, de cette idée-là. Et puis après, j'ai eu l'idée de mettre certaines énigmes, puis ça se construit comme ça. Moi, je pars toujours d'un petit truc ou une utilisation. Par exemple, pour Sherlock, c'est une utilisation qui a pas été faite dans d'autres enquêtes. Et je pars toujours d'un petit détail comme ça, puis après, j'essaie de construire l'histoire autour.
C'est amusant, enfin je sais pas si amusant est le terme comme d'habitude, mais Peggy, j'ai l'impression que toi t'es plus partie du scénario du coup. Bon, les Space Cowboys aujourd'hui, ce qu'ils demandent concrètement, c'est effectivement pour des nouveaux scénarios de Time Story, est-ce que ça apporte un petit plus d'un point de vue mécanique, c'est que ce soit pas juste une bonne histoire, mais qu'il y ait un petit truc. Mais toi, du coup, qui a inauguré, même si Manu avait déjà bossé sur La Prophétie des Dragons, t'es plutôt partie du coup du scénario et d'influence littéraire et puis personnelle.
Oui, en fait, c'est quoi, pour moi, Asylum, c'est un peu une Madeleine de Proust de plusieurs parties de jeux de rôle que j'ai pu faire. C'est vraiment un hommage à Maléfice. Quoi, c'est vous vous réveillez dans un asile. C'est voilà un grand classique en jeu de rôle. C'est aussi des parties qu'on fait souvent quand on n'a pas préparé de scénar et qu'il faut lancer une partie. Quoi, c'est voilà, c'est quelque chose qui moi me faisait plaisir.
Un truc de feignant. Quoi.
Et oui, c'est ça. Et j'avais envie de raconter une histoire qui me faisait plaisir, un truc auquel j'avais envie de jouer, quoi.
Que t'as envie de jouer ou que t'as envie de te faire raconter?
Oh non, que j'avais envie de jouer ou de faire jouer à des joueurs, quoi.
D'accord. Et justement, d'un point de vue de, tu parlais des images. Yann, toi, t'as conçu des images, t'as pris des images de Google Images, mais finalement, ça fait pas un panorama, ce qui est compliqué à concevoir dans l'absolu, c'est ça?
Oui, c'est ça, ça fait pas un panorama.
Et Peggy, t'as fait pareil aussi, les images que tu faisais, est-ce que tu partais d'un panorama pour ensuite séparer en cartes, ou bien tu partais de cartes, et puis ça faisait pas forcément un panorama continu comme dans le produit final, mais...
Non, moi j'avais trouvé la première salle qu'on a dans l'Asylum. J'essaierai de vous retrouver. Je dois encore avoir les images, mais des images anciennes qui étaient assez parlantes, qu'on avait quoique Manu a sûrement dû un peu étirer pour que ça tienne sur plusieurs cartes. Bon, après au début il y avait vraiment pas autant de cartes, donc les panoramas tenaient sur trois cartes la plupart du temps. Et on a rajouté des choses après, mais les personnages avaient déjà tous une tête et quelque chose. Pour l'ambiance, c'était important que, même dans l'écriture, que je mette une image pour chaque carte, chaque objet qui était trouvé, mais un visuel.
Ce qui est amusant, c'est, enfin, je vais toujours dire que c'est amusant, mais c'est pas grave.
Mais c'est très amusant.
Ouais, la narration de Time Stories repose sur l'interaction, un peu comme dans la BD, parfois, sur l'interaction entre image et texte. L'image, et puis quand on retourne le texte, et c'est un élément de narration à proprement parler, puisque, on peut ou non rechercher des indices sur les images, ça peut ou non être confirmé par le texte. Du coup, dans ton scénario, Peggy, tu avais déjà ces panoramas. Est-ce que tu as conçu ce qu'il y avait derrière chaque carte en fonction du diaporama final, ou bien c'était un peu... T'as trouvé finalement un truc qui collait au scénario que tu voulais avoir?
Bah les deux, hein. Je me rappelle pas dans le détail parce que ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai écrit, mais... C'est fort possible qu'il y ait certains éléments du jeu maintenant qui soient là, parce que dans la photo que j'ai utilisée, il y avait un détail qui m'a dit, tiens, on pourrait mettre ça, c'est amusant, c'est fort possible.
Et toi, Yann, c'était plutôt, tu savais ce que tu voulais écrire derrière la carte, et t'as cherché après une image qui correspondait à peu près?
Ouais, c'est ça, ouais.
D'accord, ouais, t'es plutôt parti, tu disais des mécaniques.
Moi, je suis plus parti des mécaniques, des énigmes, et puis j'ai construit l'histoire autour après.
D'accord, ouais.
Est-ce que t'as un passé de rôliste ou pas, toi, Yann?
Non, pas du tout, non.
Ouais, c'est peut-être là aussi qu'on sent la différence. T'es plutôt joueur de jeux de plateau?
Absolument, ouais, ouais. Et puis plutôt des jeux de gestion, donc des choses comme ça. Et c'est des énigmes aussi. J'ai aussi participé à la création d'énigmes pour une enquête qui a été faite sur Internet.
D'accord.
Donc voilà, c'est vraiment les énigmes qui sont la base. Et puis... après, faut un petit peu, je galère un petit peu plus pour faire le scénario.
Ok. Et t'as pas pensé à te faire aider, par exemple, pour le scénario, par un rôliste ou par Peggy?
ça serait certainement utile, oui.
Ouais. Bon, bah voilà, on a peut-être créé un couple d'auteurs ce soir.
On va voir ça.
T'en es où, en fait, toi, Yann, de ce scénario? Tu vises à essayer de le faire publier par les Space Cowboys? T'es déjà en relation avec eux?
Oui, j'ai déjà eu une relation avec Sébastien Pochon.
D'accord.
Qui m'a fait un retour. Oui, bon, ben, on habite pas très loin, hein, donc.
Non, mais t'as eu une relation. On veut pas.
Oui, bon, d'accord, évidemment. Quand on emploie des mauvais mots, ok, d'accord. J'ai déjà eu un contact avec lui qui m'a fait un retour. Et puis, je suis en train de le retravailler, de le tester encore.
D'accord.
Et après, je vais essayer de le renvoyer encore une fois, puis on verra.
Ok. Bien.
Et du coup, donc tu disais, t'as juste lu les règles, et après, tu t'es dit, c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler, c'est ça, ça me branche, quoi.
Ouais, parce que directement, ça avait l'air de qu'il y ait quand même une partie enquête. J'ai vu que c'était pas le cas forcément dans chaque scénario, mais c'est cette partie-là qui m'intéressait. Et puis j'ai tout de suite eu une idée de comment utiliser le deck d'une manière. Voilà, pour l'instant, j'ai heureusement pas vu quelqu'un l'utiliser cette façon-là, donc on verra. Et puis je suis parti de là, mais c'est vraiment, je pars toujours d'un petit détail, ce qui fait qu'après faut réussir à faire un scénario autour, et c'est le plus difficile effectivement.
Et ce scénario, je crois que c'est Guillaume Montiache qui disait que lui il s'était posé dessus un week-end et il avait bossé des heures dessus pour faire des espèces d'arborescences, etc. Une fois que toi t'avais cette idée mécanique pour un peu broder autour et faire un truc cohérent finalement au niveau scénaristique, t'as aussi des arbres de si je vais là ça fait si ça, des grandes feuilles d'arbres de possibilités, ou c'est dans la tête?
Moi, c'est en partie dans la tête. Après, j'ai commencé d'écrire sur des feuilles les différents lieux avec ce que je voulais y mettre, et puis ça s'est construit au fur et à mesure. Tout à coup, ah bah tiens, il y a une idée, je pourrais faire ça. Enfin, sans forcément trop, ça se produit pas grand chose ça, mais j'aime bien aussi plein de choses que je connais. Il y a des choses qui s'appellent des ambigrammes. C'est des textes qu'on peut lire dans les deux sens. On retrouve ça facilement avec amour, haine ou hate, love. Et puis quand on le lit dans un sens, ça fait amour, dans l'autre sens, ça fait haine, etc. Et c'est aussi une idée qui m'a, puis tout à coup, ça m'a branché sur d'autres choses et ça m'a permis de développer une idée grâce à ça.
Et toi, Peggy, même question au niveau de la création du scénario. T'avais des arbres ou c'est plutôt une idée générale, voire un espèce de script comme ça peut exister au cinéma?
Non, j'ai fait vraiment un squelette comme dans un livre dont vous êtes le héros. Si tu veux aller par là, voilà, et puis faire les arborescences. Et puis moi, comme on fait dans la plupart des jeux de rôle, je joue pour voir ce qui va se passer. Donc pour écrire le scénario, c'était un peu pareil. Et puis en fonction des inspirations ou j'ai rencontré les personnages et après j'ai écrit quoi. J'ai peut-être été quoi. J'étais la première à visiter Asylum et après, mais j'avais pas tous les détails au début. J'ai écrit comme ça venait et puis en refaisant le petit schéma quoi, tout simplement. Et puis Manu et puis Sébastien Pochon aussi ont retravaillé dessus en rajoutant des choses pour qu'il y ait vraiment que ça soit un peu plus complexe et moins linéaire, parce que mon premier scénario était vraiment linéaire. Donc ils ont rajouté pas mal de mécaniques et d'autres possibilités.
Et donc tu avais un logiciel, c'est ça que tu disais tout à l'heure?
Oui, en fait, vraiment un logiciel très simple où tu écris un paragraphe, tu attribues un numéro et puis tu fais un lien vers tel ou tel numéro. Et ça te permet après de dessiner une petite arborescence qui était pratique et puis de voir que tu n'as rien oublié dans tes liens. C'est ce qui m'avait servi de base.
Et toi, Yann, alors ils ont mis depuis à disposition un outil pour ceux qui voudraient faire des scénarios, que ce soit à destination de publication ou non. Mais du coup, tu as commencé avant que cet outil soit mis à disposition?
Alors j'ai commencé à y penser avant et puis il a été publié quand même assez rapidement. Après, je l'ai utilisé directement. Donc.
Et du coup, tu es allé quand vers Sébastien pour la première fois?
Oula, je sais plus, mais il y a quelques semaines ou un mois ou je sais plus.
Et il a réussi à te faire un retour assez rapide et du coup t'as pu retravailler le scénario, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Il y avait une partie où j'utilisais trop le deck élément et pas assez les cartes des lieux avec les symboles,
panorama, ouais,
les symboles de
trop, ouais.
Voilà. Donc j'ai retravaillé cette partie-là, puis aussi un retour où il manquait un peu une histoire globale.
Le scénario qui te posait problème.
Le scénario, voilà, qui me posait problème. Il y avait l'idée de base de retrouver des plans, mais après c'était un peu tout ce qu'il y avait dans le scénario.
Mais
et
après,
puis les cartas étaient un petit peu du genre vous voyez ça et ça, puis c'est tout quoi. Puis voilà, donc,
et du coup t'as eu l'impression qu'il recherchait toujours des scénars justement de joueurs?
Ouais, il m'a dit que fallait que je retravaille puis que je lui renvoie, mais voilà,
très vite parce qu'ils étaient à court.
Non, il m'a dit qu'ils n'étaient pas forcément pressés, donc ça.
D'accord.
Ils en ont sûrement d'autres sous le bras pour l'instant.
Ok. Et l'exploitation de ce kit de développement, par exemple, tu peux nous en parler? C'est compliqué à utiliser. Ça se présente comment?
Ça se présente en comme un fichier zip avec toutes sortes d'icônes dedans, et
d'accord.
puis les gabarits des cartes. En gros, c'est ça. Il y a pas d'équipe d'autre chose. C'est des éléments graphiques.
Par exemple, il y a pas. C'est là. Par exemple, un petit outil comme ce qu'explique Peggy, qui permet de faire des liens entre d'un endroit.
Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment juste les.
La charte graphique.
La charte graphique. Voilà. Il y a le gabarit des cartes, les endroits où on peut mettre pour les cartes A le texte sur le côté, pour les autres le texte en bas avec l'image de fond, et puis les différents icônes, les éléments les éléments d'état là, les icônes d'état, quelques icônes qui sont utilisées pour les capacités des personnages. Après il faut soit en inventer d'autres ou il y a vraiment que ceux un peu qui ont été utilisés à la base. Et voilà, mais c'est très utile quand même, ça permet déjà d'avoir tous les icônes qui sont ceux qui sont utilisés.
Ouais, ça permet effectivement de respecter la charte graphique, c'est et puis de pouvoir jouer avec le matériel, sans avoir à refaire les images, quoi.
Exactement.
Ou les scanner, ou je ne sais quoi.
Même si toi t'as pas Pochon qui te les refait derrière, Sébastien, il te les redécoupe pas ton prototype, non, tu lui envoies pas des milliers de cartes à découper?
Non, j'ai envoyé comme un prototype tout fait, puis j'ai dû le refaire complètement derrière, donc ça refait 190 cartes à redécouper, donc d'accord, c'est intéressant.
Et ça te donne une bonne idée du boulot de développement qu'ils ont eu sur les 50.
Absolument, parce que dès qu'il y a une modification à faire, tu remodifies 60 ou 100 cartes, et puis tu fais ça plusieurs fois. Donc,
et combien de doigts t'as perdu depuis?
Non, ça va, j'ai réussi à les découper correctement.
Bah, je pense que de toute façon, vous le mettrez sur la page, peut-être le lien vers l'outil. Ça pourrait être bien. Et juste Peggy, du coup tu dis t'as fait le scénario et puis t'as envoyé à Manu qui avait fait le core système, qui avait déjà travaillé la prophétie des dragons, mais Manu il est crédité comme scénariste sur Asylum, pas juste comme auteur, alors que sur par exemple Marsikes il est crédité comme auteur et Nicolas Normandon comme scénariste, pareil pour Sous le Masque.
En fait tu regardes dans chaque boîte, il y a marqué avec la participation de.
Et du coup Manu il a porté quoi en termes de scénario? Il a vraiment apporté des choses concrètes au niveau de l'histoire ou bien le principal est resté de ce que toi tu as fait?
Bah, l'idée de base est la mienne. Après, même en termes d'ambiance, ça a été refait parce que moi j'avais prévu plutôt quelque chose en 1900. Ça a été déplacé en 1920. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance. Les personnages de départ, je crois qu'il en reste la moitié. Parce qu'au moment où on a pensé les personnages dans le jeu étaient vraiment plus complexes, donc ceux qu'on avait mis au début avec l'évolution du jeu n'allaient plus, donc il y en a au moins la moitié qui sont pas de moi. Et dans la trame il y a une bonne partie des énigmes qui ont été faites par Manu, quoi. Il y a, je veux dire, le Asylum, on a autant bossé l'un que l'autre dessus. Je pense même au niveau test et développement, quoi. C'est vraiment lui qui a bossé, même si l'idée de le premier jet est de moi. Après, il y a un gros travail de la part de Manu et de Sébastien Pochon derrière.
Et à partir du moment où c'est chez Gameworks, puis chez les Space Cowboys, je pense qu'il reste en contact avec toi pour l'évolution du proto. Mais et je pense au visuel notamment, est-ce que tu étais contacté pour voir si ça restait un peu dans l'esprit de ce que toi tu voulais faire, ou bien ça après c'est le travail de l'éditeur et finalement le scénariste il a écrit le truc, il a écrit la trame et puis finalement c'est pas lui de décider de ça.
Bah, en fait moi quand j'ai donné au début ce scénario à Manu, c'était vraiment voilà, je donne un coup de main à un copain, je trouvais l'idée géniale, j'avais envie qu'il puisse tester, ça m'avait donné envie d'écrire, je lui ai donné ce que j'avais écrit sans vraiment attendre quoi que ce soit derrière. Il n'y avait pas d'éditeur à ce moment-là, quoi. Il y avait rien qui était fait. Et voilà, au fur et à mesure, après, Manu m'a tenu au courant, m'a dit voilà, ton scénario, on l'aime vraiment bien, on aimerait l'éditer, on va te faire travailler, tu seras rémunéré. Mais c'est toutes ces démarches-là avec l'éditeur, c'est lui qui les a faites. Moi, j'ai toujours été en lien juste avec lui, en fait.
Ouais, tu pensais pas que t'allais devenir riche et arriver au week-end proxy jeu à Doulincourt en Porsche, quoi.
Ben voilà, c'est ça. Maintenant, je me la raconte un peu. Voilà, grâce à Manu. Merci, Manu.
Mais on t'a fait pipi dessus toute la nuit.
Ouh là là.
Enfin, sur la porte.
Ah oui, il me semblait bien aussi quand même.
Oui, il vaut mieux préciser.
T'as des chiffres de vente sur Time Stories?
Non, pas du tout.
Non, t'as pas.
Après, ce que tu demandais pour les visuels, ben j'ai eu pas mal à chaque fois les infos par Manu quoi. Moi, je trouve que les dessins d'Asylum sont vraiment magnifiques. Ça correspond vraiment à l'ambiance. Je reconnais les personnages et je trouve que c'est vraiment réussi, quoi.
Ok. Est-ce que Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire en fait, Yann et Peggy, sur un certain nombre de Time Stories et que vous pouvez pas faire en fait? Est-ce que, par exemple, je pense en particulier à Peggy qui est rôliste, est-ce que tu te sens bridé vraiment dans ta créativité du fait de d'avoir enfermé le jeu de rôle dans une boîte, quoi?
Bah non, parce que pour moi c'est encore une fois c'est pas du jeu de rôle. Après vraiment au moment où j'ai donné le scénar d'Asylum à Manu, il y avait pas d'enjeu derrière, il y avait pas de conséquences. Ouais. Après maintenant c'est plus compliqué de vouloir travailler sur Time Story, je pense, que moi il y a 4 ans, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme limite dessus? Yann, pardon, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, je voulais dire que faut s'adapter aux différentes choses. On fait pas les mêmes. Pour moi, c'est comme si je l'ai dit, c'est les énigmes qui m'intéressent le plus. Mais on fait pas les mêmes énigmes pour un Sherlock, pour un Time Story ou pour une enquête sur Internet, quoi. Chacun des possibilités que les autres n'ont pas. Donc il faut s'adapter au support et puis de temps en temps on se dit celle-là elle n'est pas adaptée pour cette catégorie-là, donc faut pas le faire pour celui-là.
Ok, ouais. Donc tu sens des limites au format par rapport à ce que toi tu voudrais pouvoir amener potentiellement.
Mais pour tous, pas spécialement Time Story. Ouais. Il y a des choses qu'on peut pas faire dans Time Story mais qu'on va pouvoir faire dans Sherlock. Il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire que si on a un support sur Internet qui peut réagir.
Ouais.
C'est juste que c'est différent et donc après faut s'adapter au.
D'accord.
Au jeu.
Oui, quoi. Oui, je comprends bien. Effectivement, une énigme sur Internet. Tu peux faire tu peux faire appel à des liens dynamiques, des choses qui sont mouvantes, de l'intelligence artificielle même potentiellement, forcément dans Time Stories tu pourras pas faire ça. T'as des exemples plus parallèles Time Stories et Sherlock Holmes peut-être, où là on est sur un support papier carton des deux côtés, des choses que tu peux pas faire dans Time Stories que tu pourrais faire dans Sherlock Holmes?
Dans Time Story, on peut plus jouer sur des visuels ou faire des énigmes avec des codes, avec des choses, enfin des codes on peut, mais avec des codes visuels, je dirais, qui seraient sur des cartes et des choses comme ça. Sur Sherlock Holmes, disons que c'est imprimé, donc on peut pas prendre plusieurs éléments pour les combiner, par exemple.
Ouais.
Dans Time Story, on pourrait combiner plusieurs éléments. C'est plus difficile si c'est écrit sur le papier. Il faudrait les recopier, ça devient plus ennuyeux comme technique.
Oui, c'est moins ergonomique, quoi.
La contrainte aussi de texte que t'as dans Time Story, c'est que t'as une limite de caractère que tu peux mettre sur la carte. Tu peux pas, il y a plein de choses qu'il faut raccourcir. Tu vas pas raconter un roman sur la carte.
Il y a cette limite, effectivement, de texte, qu'on peut mettre sur une carte. Il y a aussi la limite du nombre de cartes. J'imagine que il y a une. Est-ce que ça apparaît par exemple dans le kit de développement? Ils disent attention, c'est tant de cartes de tel type, tant de cartes de tel autre.
Ils disent simplement qu'il faut faire des paquets d'un multiple de 65, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Donc, j'ai entendu dernièrement qu'ils voulaient plus pas forcément imprimer des trucs trop gros, que ça coûtait trop cher, mais j'en sais pas plus. Ça c'est pas marqué dans le kit en tout cas. Donc.
Ouais.
En fait. Au début, oui, c'est des contraintes qu'on avait avec Manu de limite de cartes, parce que quand tu imprimes un jeu de cartes, il y a un certain nombre de cartes, tout simplement. Mais bon, au final, vu que le scénario, tu es obligé de retravailler dessus, que tu vas enlever des choses, remettre des choses, c'est très très compliqué de calculer le nombre de cartes dès le début. Donc, il faut mieux faire le scénario et puis en testant, de toute manière, voir après.
Ouais, et laguer en fait.
Voilà. Parce qu'au premier jet, de toute façon, tu tomberas pas juste. Et puis, il va falloir faire des dizaines et des dizaines de tests en sachant que tu peux pas refaire tester aux mêmes personnes.
C'est compliqué, ouais.
Donc c'est compliqué. Après, peut-être la chose un peu ironique dans Time Story, c'est que Manu a voulu faire ça parce qu'il n'avait pas le temps de faire du jeu de rôle, mais je pense qu'avec les heures qu'il a passées sur le scénario de Time Stories, il aurait pu faire de longues soirées de jeu de rôle. Mais
ouais,
bon.
C'est clair. Alors on va peut-être passer un petit peu à la partie Sherlock Holmes. D'abord pour faire le lien un peu, toi Stéphane, pour le moment tu as rédigé des scénarios uniquement pour Sherlock Holmes. Ça te tente Time Stories?
C'est-à-dire qu'en ce moment je suis vraiment à fond sur Sherlock, puisque là j'entame la quatrième enquête en termes de rédaction, d'écriture. Donc c'est vrai que je suis plus, je suis un peu formaté Sherlock dans la tête en ce moment.
Ouais.
Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je pousse aussi le système de Sherlock dans ses retranchements, et comme le système est à la base, il date des années 80, hein, faut le rappeler, hein, c'est un jeu à la base des années 80, 81, et c'est un système hyper simple, c'est ce qui fait un petit peu sa beauté et son élégance, et c'est vrai que c'est quand même sans doute un peu plus facile de rajouter des petits trucs en plus, ou de jouer avec, de changer une petite règle, de rajouter des contraintes. Je pense notamment, pour ceux qui connaissent déjà, il y a eu une enquête où il y a des contraintes de temps, hein, d'horaire un peu. Sur ma deuxième enquête, j'ai commencé à introduire un système qui permet d'éviter de se confronter à Sherlock en termes de rivalité, ce qui est pas forcément très bien vécu par les joueurs, puisqu'il y a des histoires de comparaison de score où on est toujours un petit peu ridicule face au maître Sherlock Holmes. Et là, il y avait un nombre de pistes, mais qui permettait d'évaluer si finalement t'étais assez rapide ou pas. Mais bon, comme c'est une enquête qui se passe quand Sherlock Holmes est censé être mort, il y a pas de rivalité. Ça a enlevé ce côté ah, je suis nul, il a fait mieux que moi.
Ok. Si on revenait un petit peu sur Sherlock Holmes Détective Conseil, Time Stories, on en a pas mal parlé. Donc Sherlock Holmes Détective Conseil, tu le disais, c'est un jeu qui est sorti dans les années 80. Donc c'est un grand ancien maintenant. Un jeu qui était sorti initialement sous la forme d'un classeur qui n'a plus été édité jusque quelle année ?
Je crois que c'est 2011 Istari qui a repris.
2011 Istari qui reprend Sherlock Holmes Détective Conseil dans une boîte avec 10 scénarios.
Oui, puis avec des histoires de droits, parce que les auteurs, vous imaginez bien, dans les années 80, on passait pas son temps sur les forums ou sur Board Game Geek, donc il a fallu les retrouver. Il se trouve qu'en fait, des trois auteurs de départ, Suzanne Goldberg est devenue l'épouse de Monsieur Grady, et donc en fait, c'est Cyril qui a raconté ça dans un épisode de la radio des jeux, je crois, où il expliquait qu'il a fallu presque un an pour retrouver les ayants droit du jeu. Ouais. Donc, il y en a un qui est mort, parce qu'en fait, son mari est mort, celui qui est sur la boîte, là, Edward, c'est Monsieur Grady, je m'en rappelle plus.
Edward Baird, peut-être.
Ouais. Merci de ton aide, Flavien.
Je suis là pour ça.
Ils sont mariés et, ce qu'on a réussi à retrouver, parce que elle parle pas beaucoup, parce que d'après ce que j'ai compris, elle est en maison de retraite, carrément, enfin, elle coule une petite retraite paisible à San Francisco. Et en fait, et le troisième homme, carrément, lui, pareil, a un peu disparu des radars.
Ouais, c'est ce qui était amusant, que c'était un peu une enquête déjà pour retrouver. Il me semble que, je vais me confirmer ou non, mais qu'il l'avait repris un peu parce qu'ils aimaient bien. Ils se sont dit, allez, on va le refaire. Et puis, ils attendaient absolument rien de l'édition de Sherlock Holmes à la base.
Oui, c'est quelque chose pareil. C'est Cyril a déjà raconté ça. Alors en fait, ils font des espèces de vacances de jeux et de musique dans un gîte, un peu comme nous aujourd'hui. Et
ce serait Raymond Edwards.
Et voilà, Raymond. Il est mort, malheureusement. Merci à lui. C'est un peu grâce à lui. Et donc oui, Cyril a décidé avec sa bande de potes de le rééditer après avoir retrouvé le classeur, le fameux classeur des
et
cartes.
Et y avoir joué pendant un été, je crois.
Y avoir joué un été. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après le concours d'écriture en 2012, ils ont refait ça, c'est rejoué un été. C'est comme ça qu'en fait, ils ont testé un petit peu toutes les enquêtes qu'ils avaient reçues pour le concours d'écriture, celle de Yann, la mienne, et puis celle aussi de Cédric Lapouge aussi, qui a fait l'homme sans visage, qui est la dernière au jour d'aujourd'hui qui est éditée, en attendant la réédition et ce qui va arriver après.
Ouais, donc il y a eu Carlton House, donc qui a été réédité également avec des enquêtes inédites, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'était une extension. Ouais.
Ouais, c'est ça, en extension. Alors, c'est donc, compliqué. Quelques scénarios en standalone.
C'est compliqué parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils refont du rewriting déjà.
Oui. Hein,
et puis à la base, donc c'est un jeu américain, donc il y a des traductions. Il y avait des enquêtes qui étaient jamais traduites. Et quand ils ont fait Carlton House, en fait, il faut savoir, c'est qu'il y en avait une qui se passait pas dans Carlton House. Donc Thomas Quay qui avait déjà fait celle avec le diable là. À chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Enfin bref, il en a déjà écrit une.
La rançon du diable,
voilà. A écrit une deuxième enquête exprès qui se passe dans Carlton House pour remplacer une autre qui se passait pas, qui a été sortie du boîtier Carlton House historique et qui est devenue une enquête autonome, qui est, je crois, celle où on poursuit. Alors les noms m'échappent.
Ok. Enfin, c'est pas grave.
Enfin, à chaque fois, ils remanient un petit peu. Et puis alors, c'est compliqué parce que derrière, donc du coup, les éditions françaises correspondent pas forcément à la façon dont c'est sorti à l'époque aux États-Unis. Et là maintenant, en plus avec les traductions, c'est pareil. Par exemple, Edge Espagne. Par exemple, on fait des coffrets qui sont pareils, pas dans l'ordre. Par exemple, les masques africains, la mienne est sortie sur le titre Las Mascaras Africanas. Je suis désolé, j'ai fait allemand LV1, donc, espagnol Racial et Désiré. Et elle fait partie du coffret Carlton House, par exemple.
D'accord.
Pour les espagnols, je suis dans Carlton House, donc c'est rigolo.
Ok. Et du coup, pour le référencement, merci quoi.
Oui, la fiche sur Board Game Geek elle doit être marrante à gérer.
T'as des idées, toi, de chiffre de vente
Alors là, pour l'instant, donc c'est que la première qui a été éditée, c'est Masque Africain. Donc Masque ça commence africain. À faire un bout de temps, oui, puisqu'elle est sortie en 2013, en juin 2013. Et oui, j'ai des relevés de vente chaque ouais. année. Donc elle est en train de s'épuiser, en fait. Elle est en train de devenir introuvable. Donc si vous ne l'avez pas, précipitez-vous. Okay. Et c'était un tirage de 4000 exemplaires.
Ouais.
Et au relevé de l'année dernière, il y en était déjà parti plus de 2400.
Mmh, ok, d'accord. Et j'imagine, enfin, je sais pas ce que ça peut donner, mais un scénario de Time Stories, c'est quand même vendu une vingtaine d'euros quand même. Un scénario de Sherlock Holmes, c'est 5 euros. Je pense que tu peux dire combien tu touches sur un scénario de Sherlock Holmes.
Bah, j'ai pas reçu le dernier relevé.
Ça doit pas être très.
Pas encore, non, parce qu'il y a les ventes à l'espagnol qui ça marche très bien ici en Espagne. Alors ça doit être un pourcentage sur un coffret, donc je sais pas.
Voilà. Et
non, ça rapporte pas grand chose. Oui,
juste pour rebondir, plaisir. Du coup sur la question du, je sais pas si t'as signé un contrat purement ou pas au niveau des droits d'auteur.
Ah oui, t'as des contrats.
Ouais, d'accord. Et chez Time Stories, justement, Peggy, il y a un contrat d'auteur ou.
Oui, bien sûr, j'ai un contrat, mais c'est pas un contrat d'auteur. Moi, j'ai été payée en tant que pigiste, donc je donne mon travail pour une somme fixe. Et il ne m'appartient plus.
D'accord, ok. Alors que toi, c'est une somme fixe aussi
ouais,
ou c'est...
Oui, c'est du droit d'auteur, oui.
D'accord,
avec
okay.
Des cotisations à GSA forfaitaires. Enfin bon, c'est pas forcément... C'est un peu compliqué. Après, pour la suite, je sais pas, puisque ça, on a changé de système, puisque, comme vous le savez peut-être, ça a été annoncé par Cyril, c'est... Il y a une espèce de mix de collaboration entre Hystérie et Space Cowboy qui reprend derrière. Et là, en ce moment, moi, ce que je négocie, c'est avec Space Cowboy. Donc, c'est
ouais,
pas
oui.
fait pareil.
On allait en parler, donc c'est pour continuer sur... l'historique de Sherlock Holmes Détective Conseil, son passe au futur. Là, effectivement, il va y avoir une nouvelle édition qui va être faite.
Oui,
chez Space Cowboy.
Je suis pas forcément tout courant de tout, mais en gros, parce que c'est vrai que les gens ont pas forcément tout compris ce qui allait se passer. Donc en gros, l'Space Cowboy, qu'est-ce qui se passe en fait à la base, c'est que c'est un jeu qui se vend toujours, qui se vend très bien,
ouais.
et dont les ventes ne s'épuisent pas par le temps, ce qui est assez rare dans le domaine du jeu de société ouais. et même de la vente moderne.
Ça veut dire que c'est un jeu qui devient un classique.
Voilà, ça devient un classique. Les gens y jouent, ils achètent les extensions. Les Américains sont extrêmement demandeurs d'extensions parce qu'ils n'en ont pas eu. C'est très curieux pour un jeu qui était à la base américain.
Ouais.
Donc ils achètent la boîte de base Hystérie qui a été traduite en anglais, mais après ils n'ont pas eu toutes les extensions que nous on a eues. C'est-à-dire qu'en France on en est à la 20e et eux ils en sont restés à la boîte de base. Donc déjà il y a une grosse demande, mais par contre effectivement la traduction a un coût évidemment parce que Sherlock c'est vraiment du texte.
Ouais. Voilà.
Et c'est entre par exemple les enquêtes que j'écris, moi j'ai vérifié il y a pas longtemps dans Word, c'est entre 12 000 et 20 000 mots. Donc 12 000, 20 000 mots, forcément, ça fait un petit volume de traduction, sans compter que c'est des traductions quand même super précises, puisque chaque mot
oui.
peut avoir une ambiguïté voulue par l'auteur. Oui. Enfin, ça parle de quelque chose de bien précis. On peut pas traduire comme ça au kilomètre sans comprendre le scénario.
Oui.
Voilà. Donc à cause de tout ça, ça fait des coûts. Et à un moment donné, je crois que c'est les gens de Space Cowboy ont proposé à Cyril, qui travaille déjà avec eux, comme tout chacun sait, de s'associer, de faire une sorte de collaboration qu'on a déjà vu à Cannes sous la forme de ce magnifique stand de Sherlock Holmes avec
Sherlock Holmes Détective Conseil d'un côté et puis le futur jeu repris des
Watson et Holmes qui est un jeu espagnol
ça me faisait penser en fait tu disais effectivement chaque mot est posé dans Sherlock Holmes Détective Conseil. Je me rappelle j'ai essayé ton enquête il y a 2-3 jours.
La troisième.
Effectivement,
ouais.
Voilà, la nouvelle, celle que tu prépares. Et effectivement, on est revenu après, sur l'histoire, pourquoi on n'a pas trouvé, machin. Et effectivement, on posait un mot clairement dans l'introduction. Et, tu te posais la question, est-ce que je dois le garder? Est-ce que je dois le modifier?
Ouais, c'est vrai que c'est un jeu vraiment littéraire à la base. Alors, je voyais Fabien qui disait, ouais, Time Story, il y a des images, etc. Moi, il y a quand même moyen de faire des énigmes visuelles dans Sherlock, puisque t'as quand même des facsimilés, tu peux quand même glisser des petits détails dans les facsimilés, ça a déjà été fait. Et, notamment, dans le dernier Noël de Watson, il y a carrément, moi, j'ai rajouté une sorte d'énigme où il y a, à un moment donné, tu découvres une table héraldique et effectivement, t'as tout un petit jeu où tu dois trouver quelque chose avec ça. Donc, ça pourrait être apporté. Je crois que Cyril avait déjà évoqué ça aussi, le fait qu'on pourrait illustrer plus. Enfin, le problème étant, c'est qu'à un moment donné, si l'illustration rentre en conflit avec le texte, ça va perturber le joueur.
Oui.
Alors, faudrait choisir. Est-ce que l'énigme elle est visuelle? Est-ce qu'il faut scruter l'image ou est-ce qu'il faut bien lire le paragraphe pour les indices? Si t'as à la fois une image qui illustre le paragraphe où est-ce que tu as cherché l'info, tu vois, il y a un moment donné faut savoir quoi. Et donc il faut faire attention, c'est peut-être pas le même jeu quoi, c'est peut-être plus le même jeu, mais bon, il y a moyen de quand même de faire des beaux indices visuels. On peut imaginer rajouter des facsimilés, il y a déjà de l'aide de photos, puis on peut aller plus loin, on peut mettre des photos, on peut imaginer plein de choses.
Oui, il y a déjà des codes, je crois, des choses comme ça qui sont apparues.
Il y a déjà des codes, il y a déjà des lettres, des factures, enfin bon, voilà quoi, il y a pas mal de choses. Puis bon, il y a déjà un journal aussi. Tu pars avec un exemplaire du Times.
Là, c'est pareil. Dans Sherlock Holmes Détective Conseil, on a un cadre matériel qui est comme bien défini. Je pense qu'il y a un nombre de pages,
une police de caractère bien définie aussi.
difficile à lire, mais
c'est justement, je crois que c'est ce qu'ils vont changer, c'est toute la mise en page. Ils vont changer toute la mise en page, je pense, et puis repackager. Alors en gros, ils vont ressortir donc le jeu de base, les 10 enquêtes de base, et après ils vont sortir un nouveau coffret avec, je crois, un nouveau 10 enquêtes avec une enquête inédite, donc qui est Jacques l'Éventreur sur plusieurs nuits.
Ça fait un moment qu'on en entend parler de celle-là.
Oui, alors c'est pourquoi ? Parce que en fait, c'est une enquête qui a été envoyée dès que le jeu est ressorti. C'est quelqu'un qui avait déjà fait des recherches historiques et qui avait pondu un pavé de centaines de pages en essayant de l'adapter au système. Alors c'était sans doute très intéressant historiquement, mais c'était peut-être un peu moins au niveau ludique, donc il a fallu le digérer. Donc c'est Thomas Couet, je crois, qui a réécrit, qui a condensé, essayé de résumer, en faire un truc jouable sans devenir un expert de Jacques l'Éventreur.
Voilà. Donc Catala est co-auteur sur cette extension.
Non, je crois pas.
Mister Jack à New York, Mister Jack chez Sherlock.
Ouais. Je
vais juste finir. Oui, le deuxième coffret comportera aussi West End Aventure, qui était une extension qui a jamais été traduite en français, qui est pareil, était une extension qui est historique des années 80, qui était américaine, qui était uniquement disponible en anglais.
D'accord, ok. Oui, je voulais revenir sur le cadre matériel. Donc là-dessus aussi, il y a sur Sherlock Holmes Détective Conseil, il y a une norme, un nombre de pages à respecter, le journal, non?
Non, en fait, Cyril m'a toujours dit que ce qui suffisait, c'est que le scénario soit bon, quoi. En gros, si lui, l'enquête lui plaît, il apprend, quoi. Donc, il n'y a jamais eu d'histoire de nombre de mots, de nombre de pages. Bon, c'est vrai que bon, normalement, le livret, quand c'était en format livret, c'est vrai que ça faudrait que ça tombe sur un certain nombre de mots qui fait un certain nombre de pages paires, hein, les contraintes de l'imprimerie. Mais en fait, je me rappelle que les masques, c'est pareil, il y avait, c'était assez long, donc il y avait une page de libre en plus. Et puis, en fait, ils ont mis une pub dedans, et puis voilà, ils se sont arrangés, quoi. Non, on n'a jamais été problème. Alors, le journal aussi, c'est amusant parce qu'il y a certaines enquêtes où effectivement, il est recto verso. Et après, il y a des gens qui disent, ah oui, mais les prochains journaux et certains journaux sont verso. Enfin, il y a qu'une seule page. Alors, les gens disent, ah, gna, gna. En fait, non, c'est juste que moi, c'est pareil. J'ai des enquêtes où j'ai besoin vraiment du journal et puis j'en mets les tartines dedans. Donc, il est recto verso. Mmh. C'est le cas sur le dernier Noël de Watson. Les masques, je crois pas. Je crois que j'avais juste une page. Le monstre volant que t'as joué, là, c'était juste un recto.
C'est juste une page.
Voilà, ça dépend des fois. Et là, la prochaine, va y avoir un plan en plus, par exemple. Un peu comme dans Carlton House. On ira à la campagne, un petit peu, prendre l'air avec Sherlock.
D'accord. À Doulincourt?
Non, ça sera, à Doulincourt. ça sera Theobald's Park, qui est un domaine avec un petit peu une ménagerie, des conneries. Enfin, de quoi faire dehors, quoi.
Ok. Yann?
Il y a quand même la structure de respecter avec les informateurs qu'il y a, donc en mettre un certain nombre, et ça c'est quand même une structure de base un peu respectée avec le journal et l'utilisation de l'annuaire et du plan aussi qui sont le matériel de base.
Mais effectivement, il y a un certain nombre de personnages qui sont récurrents et en fait qu'on peut systématiquement aller voir dans toutes les enquêtes, quoi. Donc cela, il faut forcément prévoir un paragraphe pour eux.
Oui, il y a 14 informateurs, comme disait justement Yann. Et c'est vrai que quand tu crées une enquête, très honnêtement, sur les 14, il y en a bien un, n'est-ce pas? Un ou deux qui te font bien chier parce que t'as juste rien à dire sur ces informateurs-là.
Oui, alors de temps en temps, on met qu'il y a un informateur qui est parti en vacances, ou on met des choses comme ça. Parce qu'on sait pas, comment l'utiliser celui-là, donc on s'en débarrasse.
Ah, tu vois un petit côté jeu de rôle quand même, tu vois. C'est le verre magique.
On leur pose des RTT d'office, en gros.
Mais le à l'asile.
Ouais, on peut le mettre. Oui, je sais pas. Oui.
Ouais.
Et du coup, Stéphane, il y a des enquêtes. Alors peut-être, des enquêtes que t'as eu envie de faire et qu'on t'a dit non, elles sont toutes pourries, ou bien t'as réussi à arriver à tes fins.
Non, ça va, ça se passe pas comme ça quand même. Ce qui se passe, c'est que des fois, on a des envies, on a des idées des fois qui viennent de scénarios, puis on essaye de effectivement, faut à un moment donné, faut se conformer au jeu. C'est-à-dire que si tout d'un coup t'as envie de faire une enquête, d'avoir un univers qui est pas celui de Sherlock Holmes, je pense notamment aux thèmes trop fantastiques. Je pense notamment, c'est vrai que quand on joue à Asylum, on est en plein Maléfice. Moi, j'aime beaucoup le jeu de rôle Maléfice où il y a toujours une frontière entre le fantastique et une interprétation, aussi la place à une interprétation scientifique rationnelle. Et dans le jeu de rôle Maléfice, tu sais jamais où t'es. C'est-à-dire à un moment donné, tu sais pas, ça peut être des barjots, ça peut être des gens qui racontent n'importe quoi, qui sont beaucoup trop ésotériques, et en fait, il y a une explication tout à fait rationnelle et scientifique, ou au contraire, effectivement, tu peux avoir affaire à du surnaturel. Et à un moment dans la partie, qui peut durer longtemps, le scénario est vraiment...
Ne spoil pas.
Ouais, ouais. Et moi, je trouve ça génial. Et c'est vrai que dans Sherlock, il y a ce petit problème.
On est ancré dans la réalité de Sherlock.
Normalement, si on respecte l'univers de Sherlock Holmes par Conan Doyle, tu dois quand même tomber à un moment donné sur des solutions effectivement plutôt rationnelles.
Et sans parler donc d'enquête que tu aurais abandonné complètement, il y a des petits éléments comme ça, il y a un truc qui te vient en tête, un truc plus ou moins précis que t'as laissé tomber parce que justement ça rentrait pas dans la mouture.
Alors c'est autre chose, mais c'est sur la deuxième, le dernier Noël de Watson où j'étais parti sur une enquête qui se passe vraiment dans le grand hiatus, ce que les Olmésiens appellent le grand hiatus. Donc c'est le moment où Conan Doyle, l'écrivain, en a marre d'écrire du Sherlock Holmes. Donc en 1893, il veut faire du roman historique, il veut vraiment se consacrer à ça. Et en désaccord complet avec sa mère, avec son éditeur, il décide de tuer Sherlock Holmes. Donc c'est le fameux épisode que tout le monde connaît où il y a Moriarty qui arrive comme ça d'un chapeau bientôt, et il y a ce fameux duel dans les chutes de Yann, c'est en Suisse, hein. Reichenbach.
Reichenbach.
Voilà, ça c'est de l'accent.
Reichenbach.
Et voilà, donc il y a la chute, il y a cette fin terrible, et il se débarrasse vraiment, il suicide son personnage, enfin il le tue quoi, il tue vraiment son personnage. Et à ce moment-là, à partir de là, il y a dans la vie réelle 10 ans pendant lesquels il écrit pas du Sherlock Holmes, il fait autre chose. Et à un moment donné, sous la pression des lecteurs, des fans, de l'éditeur, et puis parce qu'il a besoin d'argent et que ça rapporte très bien, il recommence. On est en 1903 quand il réécrit encore du Sherlock Holmes. Alors avant, il y a juste un roman, c'est le fameux Chien des Baskerville, qui est censé se passer avant, qui meurt. Et donc à un moment, ça repart avec La Maison Vide, qui est le retour de Sherlock Holmes. Et
moi, j'ai cru que c'était une chanson de Claude François.
La Maison Vide.
Ouais.
Ah oui,
c'est qui, Christophe? Non, Christophe, c'est Les Mots Bleus. C'est une maison bleue.
C'est Hugo Frey.
Voilà, Hugo Frey, c'est ça. Alors, c'est bien de faire des sauveurs Hugo Frey, Sherlock Holmes.
C'est bien de faire des vannes sur les noms de chansons, mais au moins réviser vos auteurs, vos chansons avant, parce qu'après, ça ressemble à la cérémonie de l'As d'Or avec ABBA, n'est-ce pas, le groupe norvégien.
Et du coup, Yann, toi, t'écris des enquêtes depuis quand?
J'aurais pas la date en tête. J'ai commencé à en écrire une, donc l'affaire du pendu. Puis je crois que j'ai enchaîné
pour le concours.
Pour le concours, je l'ai écrit avant. Et j'ai même écrit la deuxième avant. Et après, je pense qu'une semaine après ou deux semaines après, il y avait le concours. Donc, je les ai quand même envoyées, mais comme elles étaient déjà publiées sur l'internet, elles n'ont pas pu être éditées, en tout cas une, qui, d'après des retours que j'ai quand même eu de Cyril, était très intéressante. Donc ouais. Voilà. C'est donc l'affaire Diavolo, pour ceux que ça intéresse, elle est disponible, donc voilà.
Ok. Tu es trop rapide, Yann, par rapport à la sortie des jeux, tout de suite, toi, ouais. tu es au taquet sur...
C'est son côté suisse.
ouais, c'est ça. Ouais. Non, je sais pas, c'est juste que, au départ, de toute façon, j'avais aucune intention de faire publier ça, ça m'est même pas venu à l'esprit.
Ouais.
C'était juste que ça m'amusait d'en écrire une, et puis voilà. Parce que chaque fois, comme je dis, j'ai toujours une petite idée de base, c'est un truc qui n'est pas utilisé. Et puis tout à coup, je me dis, ah, mais tiens, ça pourrait être intéressant d'utiliser cette petite astuce, et puis après, j'écris quelque chose autour.
Ok. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Yann, à commencer à écrire des scénarios pour des enquêtes pour Sherlock Holmes? C'est une passion pour Sherlock Holmes, c'est une passion pour le jeu, plutôt?
Alors c'est plus pour le jeu. Ouais. J'ai découvert le jeu que je connaissais pas avant qu'il soit réédité en 2011. Et puis j'ai adoré ça quand j'ai fait ça. J'en ai fait plusieurs assez rapidement. Quelques-unes toutes seules aussi. Je me suis rendu compte que tout seul c'était pas vraiment évident de penser à tout et qu'on galérait pas mal tout seul.
Ce qui est amusant, c'est que tu disais que t'es un joueur de jeu de gestion, les mécaniques, etc. Et je sais pas si t'as fait des protos pour des jeux plus allemands, disons.
Non, pas du tout.
Non, et ce qui est amusant, on va l'assumer.
Encore une fois.
Amusant.
Il existe des dictionnaires de synonymes en ligne. Hein,
ce qui est rigolo, ce qui est funny, ce qui est gousy-gousy, c'est que tu t'orientes vers, que ce soit Time Stories ou Sherlock Holmes, des trucs relativement narratifs, alors que vivre une histoire dans Kingdom Builder ou vivre une histoire dans Satotonica, c'est quand même...
tellement excitant.
Oui, absolument. Sexy. C'est pas vrai.
C'est super pour Satotonica, je suis désolé.
Mais de nouveau, comme je le disais, moi, ce que j'aime, c'est le côté enquête, c'est le côté énigme. Ouais. Et c'est bien mon souci, c'est que je galère à faire un scénario après autour. Ouais. Parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Que justement, si on pouvait faire une enquête de Sherlock ou un Time Story, avec la même chose que Satotonica, moi, ça m'irait très bien. À partir du moment où il y a des énigmes dedans, moi, ça me va.
C'est simple, hein, tu prends le thème de Satotonica. Je sais pas ce que ça va donner.
Oui. Là, pour reprendre l'expression de Flavien, c'est vrai que c'est amusant. Alors moi, c'est le contraire. Moi, je pars souvent des personnages et de l'histoire pour créer des scénarios, des enquêtes.
Et Yann, du coup, tu t'es alors si t'étais plutôt fan du jeu, est-ce que du coup tu t'es documenté pour réussir à faire ces enquêtes?
Oui, quand même. Oui. Ben quand j'ai un peu l'idée, je cherche ce qui s'est passé quand même dans l'année en cours, par exemple pour mettre des infos dans le journal qui correspondent à l'année, parce qu'on va quand même pas chercher au mois près, ça commence à être compliqué.
Ouais. En fait, tu te bases sur des faits qui se sont vraiment passés.
Certaines fois, oui. Ouais. J'en ai écrit une troisième. Dans la troisième, je suis basé sur un fait réel. Ouais. Sur la deuxième, l'affaire Diavolo, je me suis basé sur, parce que je suis aussi illusionniste, et je me suis basé sur les automates de Robert Houdin, donc qui est le magicien français qui a amené la magie dans les théâtres. Et d'accord. Puis là, il avait toutes sortes d'automates, alors. Je me suis dit que je pourrais, justement, pour trouver une idée des choses à raconter, je me suis dit que j'allais mettre un magicien qui aurait racheté les automates de Robert Houdin. Enfin, en tout cas, au niveau des dates, ça pourrait coller.
Il en a fait une sauce, la sauce automate. Merci.
Ça fait une minute qu'il essaie de la placer.
Bah oui,
encourager.
Il n'ose plus en faire pour présenter les critiques ou les chroniques, donc il se dit « je vais me rattraper ».
Voilà, puis comme il y a ces différents automates, je me suis dit que dans plusieurs parties, les personnages pourraient raconter, décrire l'un des tours, et ça permet justement de décrire ces tours-là et de faire connaître ces automates aux personnes qui font
d'accord,
l'enquête.
Ouais. Et tu t'es avalé tous les romans de Conan Doyle?
Non, pas du tout, non.
Non, c'est vrai.
Pour le coup, je connais assez mal tous les romans.
Je ne sais pas de qui vous parlez.
Stéphane le regarde très bizarrement.
Mais quel feignasse!
T'auras pas de contrat, hein, pas de facture.
Et toi, Stéphane?
Ouais, je crois que c'est connu. Moi, je fais exactement le contraire. C'est vrai que je documente à fond. Et par exemple, pour le monstre volant, c'est vrai que je suis parti de tout ce qui pouvait voler dans le ciel à cette époque-là. Et... oui, je fais beaucoup de recherches. Ouais. En fait, ce qui est mon plaisir aussi, c'est de mettre dans le journal justement. Bon, c'est vrai, je fais comme Yann. Hein, à quelques mois près, on va pas jusque là, on n'est pas fou.
Feignant.
Ah oui, non, c'est juste impossible. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi que le Times soit blindé de faits divers et de personnages ou même de petites annonces amusantes qui sont réelles.
Ouais, les petites annonces amusantes. Ouais.
Ah, il a un mauvais souvenir avec une petite annonce amusante parce qu'il a suivi cette piste et il regrette, je crois.
Ah, c'est pas moi qui l'ai suivi.
Oui, c'est vrai. On va pas nous dire de nom parce que la paix des ménages est en jeu.
cette parenthèse des private jokes passée. Oui, donc et les romans de Conan Doyle. Tu les connais tous par cœur?
Oui, j'ai tout révisé, ouais. En édition bilingue, hein, s'il vous plaît.
Prochain épisode de Proxy Jeux, Voyage au bout de la nuit sur Conan Doyle avec Stéphane, qui va nous lire. Tu nous lis lequel?
Je sais pas. Bah, écoutez, j'aimerais bien, s'il y a des gens qui veulent le découvrir, moi je vous incite à lire les nouvelles fantastiques aussi de Conan Doyle, pour rebondir justement sur des thèmes fantastiques. C'est très méconnu. Il y a des petites nouvelles fantastiques et il y en a certaines qui dépareilleraient pas dans un petit scénario de Maléfice ou de Tulu.
Ouais. Bon, on a un crossover tout trouvé, un invité tout trouvé pour Hearthstone Chronicle.
prochain épisode, ouais. On part peut-être sur le parallèle justement entre l'écriture de jeux narratifs et les différences entre un jeu narratif comme Time Stories avec les visuels
et Sherlock Holmes qui est peut-être plus littéraire. Je sais pas si on peut dire ça, si tu le définirais comme ça, une des différences. Est-ce que c'est ça, Stéphane?
Oui, je crois que Peggy évoquait le nombre de mots disponibles sur les cartes. C'est évident que sur Sherlock, on est vraiment sur du texte avant tout, et l'illustration n'est qu'un support. Hein. Ce que fait par exemple Nériac ou Arnaud, ce sont des images pour illustrer. Il y a pas... Par contre, il y a des facsimilés. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut emmener cette histoire, mais c'est vrai que c'est avant tout littéraire et avec une importance quand même très grande sur la lecture. D'ailleurs, c'est aussi un des obstacles du jeu. Oui, hein, des gens qui disent clairement qu'ils n'aiment pas lire et... ça les bloque, hein, pour jouer à Sherlock, faut dire ce qui est, quoi. Parce que c'est, il y a quand même le journal à s'avaler, à éplucher, etc. Il y a aussi un élément aussi qui se joue, puisqu'on a joué à Times, on a fini un Time Story ce matin, justement. C'est, la prise de notes, quand même, qui est commune aux deux jeux. Qui est assez rare dans les jeux, finalement, carrément de prendre des notes.
C'est plus jeu de rôle, ça, de prendre des notes durant la partie.
Ah oui, c'est jeu
d'enquête. Faut faire le plan.
Ouais, faut faire le plan.
Non, mais oui, on revient au côté enquête, en fait, hein, plus que jeu de rôle.
C'est vraiment le côté enquête, quoi. Ouais, ouais. Mmh.
Pour rebondir là-dessus, il y a même dans les jeux vidéo, là, The Witness qui est sorti cette année, où justement, c'est un jeu vidéo qui oblige à reprendre le papier pour essayer de trouver des solutions et où on gribouille, on gribouille, on gribouille, et c'est le côté enquête aussi qui fait ressortir ça, quoi. Je recommande par ailleurs.
Oui, ou pour revenir sur le jeu de société, jeu de plateau, Mystère à l'Abbaye ou Cluedo, forcément qu'il essaie de prendre des notes pour réussir à dénouer les fils de l'histoire. Même si là, on est dans un registre beaucoup plus
oui,
cadré.
Oui, on biffe juste, ouais, mais bon, ouais. Oui, c'est pareil, ouais.
Justement, dans Sherlock Holmes, il y en a un qui est particulièrement, c'est, je crois, les meurtres de la Tamise, où il y a tellement de pistes, il y a 5 meurtres, je crois, dedans. Donc, on se met à faire vraiment les plans comme on voit dans les séries policières sur l'écran blanc, avec la ligne du temps pour enquêter, qu'est-ce qui s'est passé avant quoi. Et là, on est bien, en immersion comme un enquêteur quoi.
Ouais. Et vous typiquement pour rédiger un scénario vous faites ça? Vous nouez des fils entre des personnages entre vous posez ça sur papier?
Ah je pensais que tu disais vous tuez vraiment des gens pour voir comment les enquêteurs
comment ça fait. Ah, écoute c'est l'expérience hein.
Ouais, en tout cas moi je fais des bulles avec les différentes pistes puis des flèches qui vont d'une à l'autre.
Ouais, d'accord.
Et puis ça fait un ensemble de chemins qui tournent dans tous les sens et
paf, carte, ça fait des chocs à pic.
Ça s'appelle une carte mentale. Moi aussi je bosse beaucoup comme ça.
Carte mentale.
Ouais. Oui, ou des cartes heuristiques aussi. Enfin, il y a plein de choses. Et sinon, pour répondre exactement à ta question, oui, on fait aussi. Enfin, moi, je fais des frises chronologiques pour savoir effectivement à quel moment, même avant l'histoire. Par exemple, s'il y a une histoire où il y a quelqu'un qui rentre d'un pays étranger à tel moment, bah oui, je vais mettre la date et puis tout ce qui se passe avant. Et même, enfin, ça, c'est un truc assez classique quand t'écris des romans policiers de faire une chronologie. Oui.
Ouais. Et travailler ces personnages en amont, leur faire un background, tout ça, vous le faites ou c'est nécessaire pour
C'est pas nécessaire parce que c'est vrai que les personnages vraiment tu vas les croiser sur un paragraphe, deux maximum, enfin trois peut-être avec l'intro ou avec la fin, mais t'as pas tellement besoin pour tous les personnages d'aller aussi loin parce que c'est quand même pas un roman, c'est pas une nouvelle, etc. Mais c'est intéressant parce que justement, comme je prends des cours d'écriture à côté, il y a eu un atelier sur la caractérisation de personnages et je me suis surpris à commencer à faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire des fiches de personnages avec un background, avec des émotions, un caractère assez fort, avec des à l'inverse des je vais pas y arriver.
Vulnérabilité.
Merci Dédé. Le scénario est pas né de là, mais ça m'a beaucoup aidé à changer mon écriture, à aller au-delà de choses assez stéréotypées, et c'est pas mal. Donc ça peut aider sur des huis clos, par exemple. Je pense, imagine un meurtre dans une salle fermée ou des invités à un dîner. T'as 8 personnages bien caractérisés et tu vas faire toute une toile comme ça entre ces personnages, un peu comme des soirées enquête où finalement tout le monde a un peu un bon motif d'avoir tué ou volé quelqu'un et ainsi de suite. Et là, tu peux t'amuser avec des caractérisations à aller plus loin que ce que t'avais juste imaginé au départ.
On peut espérer que ta prochaine enquête soit meurtre aux toilettes. Un petit huis clos bien sexy.
D'accord.
Je crois que ça veut dire non. Tu prends des cours d'écriture. Enfin, je trouve ça intéressant parce que c'est. J'imagine que dans Time Stories, on n'a pas besoin de. Bah, on n'aurait pas forcément besoin de cours d'écriture, quoi. Enfin, je sais pas les paragraphes. J'ai fait qu'un début de partie, moi, de Time Stories. On n'écrit pas un roman, donc.
Généralement c'est du texte assez court, des descriptions, ou un petit dialogue. Il faut il faut que ça soit assez court pour aller à l'essentiel. Mmh. Donc,
Alors que dans Sherlock Holmes, il y a une ambiance un peu à planter, peut-être. On n'est pas non plus dans un roman, mais j'imagine que, effectivement, si tu fais un background des personnages, que tu en donnes une caractéristique, l'idée, c'est d'essayer de trouver, comme on disait tout à l'heure, les termes pertinents qui vont faire que ça va faire ressortir un peu le personnage, et du coup, ça va donner un peu de vie, un peu de couleur.
Oui,
à l'enquête,
il n'y a pas que ça, c'est surtout, c'est que, bon, quand tu fais une enquête ou quand tu fais un scénario, des fois, tu sais pas trop comment t'as fait, en fait. Tu te poses pas trop de questions et puis tu fais ton scénar. C'est un peu le cas qui s'est produit avec le concours d'écriture là sur les masques africains. Je l'ai gagné, puis bon, je suis content, mais finalement rétrospectivement, je sais pas trop pourquoi je l'ai gagné. L'enquête est bonne, etc. Mais moi, j'ai pas compris comment j'avais fait quelque part. Je croyais avoir compris, mais quand j'ai écrit la deuxième, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si simple. J'ai eu des blocages énormes et beaucoup de problèmes à écrire une deuxième enquête. Et quand j'ai commencé la troisième, je me suis dit à un moment donné, oui, bon, faut peut-être un peu que si je veux vraiment en faire beaucoup, c'est de prendre des cours et de comprendre pourquoi il y a des moments où ça coule tout seul et d'autres moments où t'es complètement bloqué ou pendant une semaine t'arrives pas à avancer ou tu sens que ça marche pas. Et les cours d'écriture, ça aide à ça. Bon, après, c'est pas effectivement des cours d'écriture sur de la narration comme Sherlock Holmes, des trucs non linéaires, mais il y a beaucoup, beaucoup quand même de points communs avec des techniques d'écriture classiques, avec la dramaturgie, avec effectivement des histoires de background de personnages. Ça, c'est un truc super connu des scénaristes de séries, etc. Il y a l'écriture sérielle aussi qui peut être très intéressant. Puis c'est surtout quand même que du policier. L'écriture pour la série policière ou pour les séries, avec des systèmes de sous-intrigues. Il y a beaucoup de sous-intrigues dans Sherlock Holmes.
Ouais. Des flashbacks et tout ça.
Non, mais les questions un peu optionnelles, quoi.
Oui, ce qu'on retrouve à la fin dans les questions optionnelles, et puis même une bonne fausse piste, finalement, c'est une intrigue très crédible ou une sous-intrigue. Donc c'est intéressant de savoir comment tu développes une intrigue principale, finalement peut-être pas super compliquée, parce que finalement les gens, c'est peut-être pas la peine de les perdre dans des trucs trop tarabiscotés, mais de noyer bien ça avec des intrigues secondaires, avec des fausses pistes, de manière à tisser une toile dans laquelle le joueur va pouvoir comme ça errer, se perdre, revenir, et puis finalement trouver la solution.
Puisque tu disais tout à l'heure, Cyrus, c'est par rapport à la couleur, un peu à l'univers, c'est vrai que dans Time Stories, tout ça... Le visuel l'apporte, et que dans Sherlock Holmes, il faut réussir, enfin, pas tout, mais le visuel apporte certaines choses qu'il faut essayer, une ambiance, des couleurs, des imaginations, des images qu'il faut amener peut-être avec Sherlock Holmes par le texte.
Oui, puis alors c'est toujours pareil, c'est une question de répétition, c'est quand tu fais une enquête, deux enquêtes, trois enquêtes, il faut imaginer justement, notamment avec les 14 informateurs par défaut, plus la scène d'exposition, soit éviter de se répéter. Surtout qu'il y a quand même à un moment donné, t'as l'impression que c'est un jeu où si tu le fais mal, on pourrait imaginer que ça s'est ramené à aller quelque part, bonjour, tiens, on vient enquêter, ouvrez-nous la porte, ah oui, salut, on parle de... Tu vois, c'est toujours un peu la même chose. Tu peux pas tomber toujours sur le cliché le majordome qui t'ouvre, on te sert le thé. Enfin, toi, c'est peut-être sympa une fois, mais imagine répéter ça sur toutes les entrées de plusieurs enquêtes, c'est juste pas possible.
Tu finis aux toilettes à boire tellement de thé.
Ouais, voilà déjà. Non, mais ça devient cliché. Enfin, à un moment donné, il faut que tu te renouvelles. Donc, c'est vrai que toutes les techniques d'écriture, elles veillent à réinventer ça à chaque fois. Et effectivement, comme tu disais, il y a une espèce de style aussi qui est celui de un petit peu de l'époque victorienne, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, où il y a une façon un peu de présenter les choses qui est quand même aujourd'hui qui paraîtrait un petit peu désuète. C'est pour ça d'ailleurs dans certaines enquêtes, on a des paragraphes où on a un petit peu une petite ambiance, mais aussi une façon de dire les choses, notamment aussi dans les articles de journaux, qui est quand même pas très concise, ou c'est un petit peu précieux.
Pas très concise et des fois même pas très compréhensible, même.
Voilà, c'est là que c'est dangereux. Voilà, c'est là qu'il faut faire attention, c'est que faut avoir un alors déjà, il y a un côté aussi qui est dur, c'est qu'on parle d'un atmosphère anglaise, c'est quand même très britannique, et tu dois en parler avec des mots français aussi. Tu peux pas te permettre de toujours utiliser des mots anglais, même si bon, alors street, tout le monde comprend. Déjà, quand on parle des monnaies, les deniers, les shillings, tu vois, les gens déjà commencent à, tu peux pas forcément mettre des abréviations, parce que les gens, par exemple, SH, ils savent pas forcément que c'est des shillings, c'est la monnaie de l'époque. Puis après, ils peuvent pas forcément se représenter ce que ça représente. Alors dans des enquêtes, ça peut être intéressant de savoir si tel personnage a eu par exemple tant de livres. Est-ce que c'est une forte somme d'argent qui te permet d'acheter quelqu'un, de corrompre quelqu'un, etc. ou pas. Enfin, tu vois, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais quand on rédige des enquêtes, faut rester effectivement compréhensible pour un genre d'aujourd'hui au XXIe siècle dont l'objectif n'est pas de devenir un expert de Conan Doyle et des histoires criminelles du XIXe.
Oui, et tu peux pas mettre 40 000 euros, quoi.
Donc, voilà, exactement. Ouais.
Peut-être Yann, comme t'as fait un peu les deux, Time Stories et puis Sherlock Holmes, quelle différence toi tu vois justement dans l'écriture, dans la création d'un scénario, d'une histoire, d'une narration entre les deux?
Oui, bon, c'est évident que dans Sherlock Holmes, il faut quand même plus développer le texte. Même si encore une fois, moi je vais me répéter encore une fois, comme je pars à l'envers, c'est la partie du scénario c'est la plus difficile pour moi, donc je pars toujours d'un petit détail, d'une petite utilisation du matériel, et je construis le scénario au fur et à mesure. Donc j'ai un peu de mal, comme disait Stéphane, à ne pas faire hey, bonjour, je suis le majordome, je vais aller dans le petit salon, le maître va arriver, enfin bref, et puis des choses comme ça. J'ai peut-être tendance à que ça se répète, ce genre de choses.
Et peut-être que dans Time Stories, on peut plus se permettre aussi des références un peu geek, un peu de la pop culture, etc., que dans Sherlock Holmes. Je sais pas, il y en a peut-être, remarque, hein, dans Sherlock Holmes, que vous arrivez à caser subrepticement sans dépareiller. Mais
alors il y en a déjà dans le jeu de base, en fait. Oui, il y a des
références à Star Wars.
Ouais, dans l'annuaire, il y a des personnages il y a un moment donné, t'as l'adresse du Hobbit qui est utilisée dans une enquête où en fait il y a un taxidermiste qui est en fait un Hobbit. Puis tu regardes bien, t'as deux trois personnages assez bizarres dans l'annuaire aussi. Et puis dans les enquêtes même, il y a des petits pas des clins d'œil geek trop lourds, mais il y a des petits clins d'œil quand même à la culture, je dirais littéraire, en dehors du Sherlock Holmes pur.
Pour le coup, dans Type Story, tu peux tout te permettre puisque tu fais le scénario que tu mets dans l'époque que tu veux, même dans des choses, des époques qui n'existent pas, des côtés fantastiques ou comme ça. Donc des références, tu peux en mettre tout plein. Moi, dans mon scénario, ça dévoile rien, mais j'ai mis à un moment donné une toupie, puis j'ai mis qu'elle avait l'élément numéro 42, donc pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc voilà, on peut s'amuser beaucoup plus facilement dans Time Story pour le coup que dans Sherlock Holmes. Il faut quand même respecter l'époque. Quoi. Le cadre.
Oui, et puis dans Time Stories, tu peux même varier les genres, hein, parce que suivant les scénarios, c'est même pas du tout le même genre, comme si on voyageait entre différents univers ou différents ce qu'on fait exactement dans le jeu de rôle, en fait, hein. On joue tel genre ou tel genre.
Oui, alors je pondérerais ça dans le sens où tu peux très bien utiliser le système de Sherlock Holmes dans un autre univers aussi. Tu peux très bien garder le game system et puis scénariser.
Je pense que ça reste quand même très littéraire, forcément.
Alors par contre, oui.
Oui, ça reste très littéraire. Ce serait transposé dans un autre univers, mais...
Tu ne vas pas pouvoir faire du post-apocalyptique, par exemple, avec du Sherlock Holmes, détective conseil, difficilement.
Il faut vraiment le...
C'est vrai. Alors, ça dépend, non, mais, parce que, c'est intéressant, en fait. Intéressant. Ça veut dire que...
Ils ont bien ramené les Sherlock Holmes dans les séries à notre époque actuelle.
Ouais, mais tu, à mon avis, tu restes quand même dans une enquête policière.
Voilà, oui.
Alors je sais pas, mais en fait c'est le côté matériel aussi, peut-être tu veux dire, non, le fait que ce soit littéraire, que ce soit du texte, que du coup tu le verrais mal dans un environnement post-apocalyptique.
C'est pour moi c'est du policier, quoi, ça peut pas être autre chose que du policier.
Oui, alors en fait si tu réfléchis bien, t'as beaucoup de romans dans d'autres qui existent, qui sont en fait des enquêtes policières cachées. Je vais te donner un exemple très simple, par exemple t'as des histoires de famille, et si tu fais un huis clos dans une histoire de famille, un truc classique, un repas de famille, ça tourne mal, il y a des tensions, on est dans une vieille maison, etc. Les enfants montent au grenier, on ouvre des vrais... Tu vois, ça peut devenir très rapidement, même si tu enquêtes sur des histoires de famille, ça peut devenir une espèce d'enquête policière où il n'y a pas de meurtre, rien, où tout d'un coup tu vas enquêter sur des secrets que tu sais pas, et puis finalement tu t'aperçois, tu vois, ça peut faire ressortir des vieux sautés. Donc tu peux très bien, il y a déjà en littérature... beaucoup de choses qui on croit à la première lecture qu'on n'est pas en train de lire un policier, parce qu'effectivement il n'y a pas un mec avec un chapeau ou un flic qui arrive, mais en fait c'est une enquête en termes de littéraire, c'est de dramaturgie, c'est de l'enquête. Okay. Donc ça existe, donc ça serait très bien de transporter
Oui, dans un univers post-apocalyptique, je sais pas, on pourrait imaginer que des gens recherchent un endroit où est stocké de la nourriture, j'en sais rien, et puis ils parcourent des énigmes, des enquêtes, voilà, enfin bon.
En fait, ce que je voulais dire, c'est faire plutôt référence à des genres, quoi, en jeu de rôle, quand on pense à un jeu post-apocalyptique, c'est forcément un jeu où il va y avoir des contraintes de survie, avec des denrées, des choses comme ça.
Mais t'auras peut-être
t'as plein de genres qui sont vachement codés, qui sont sûrement plus facilement adaptables dans Time Story, parce que tu peux varier sur ces genres-là plutôt que Sherlock, mais je sais pas.
Oui, ça dépend si on a. Ce qui manque dans Sherlock, enfin ce qui manque, oui et non, Sherlock a toujours fait l'impasse sur effectivement un système de variables, quoi, un système effectivement par exemple de stock de nourriture, pour prendre l'exemple de Peggy, s'il fallait dans un univers apocalyptique gérer par exemple à la fois de la bouffe ou des vivres, puis en même temps gérer par exemple l'exposition à des radiations, par exemple, pour rester dans le thème. Donc ça serait juste deux sliders, quoi, deux valeurs, deux échelles à gérer. Bon, c'est vrai que Sherlock a pas encore ce genre de choses.
Ou alors faut rajouter des mécaniques.
Voilà, on peut rajouter des mécaniques. Ouais. Je sais pas jusqu'où on peut aller. Faut savoir qu'il y a déjà des gens qui développent un autre jeu avec le même principe que Sherlock dans du Lovecraft. Hein. C'est un truc qui a commencé en print and play, qui était, je crois que c'est un Arkham Investigator, que ça s'appelle. Et c'est devenu Mistos Tale. Ils ont réussi leur Kickstarter. Alors, je sais pas si ça sortira un jour en France. Je sais même pas si ça sera vraiment très bon. Ça, je peux pas dire. Mais bon, tu vois, il y a déjà quelqu'un qui a pensé à transposer le même principe dans un autre univers. Ouais. Et personnellement, j'en avais déjà parlé de transposer Sherlock, moi, par exemple, dans le Klondike, et de faire des histoires plutôt un peu plus mélange victorien et Far West avec des Herbie Verlor, etc. Ou de faire des choses dans les années 70 avec un médium. Enfin, c'est des choses qu'on peut se transposer, même si là, ça reste du policier assez clairement, quoi.
Ok. Tu travailles sur ce genre de choses en ce moment ?
Alors là, je me focalise vraiment sur du Sherlock, puisque moi, mon objectif, c'est effectivement de faire plutôt un coffret d'enquête un peu plus fantastique avec la réédition, avec le nouveau packaging là qui est en cours pour Space Cowboy. Et après, oui, j'ai envie de faire d'autres jeux dans cette veine, quoi, jeux d'enquête toujours.
C'est une commande des Space Cowboy, ça ? Ou c'est plutôt une volonté de toi,
c'est un mélange entre une volonté de moi, un arrangement avec Cyril, et puis voilà, quoi.
Ouais, d'accord.
Peut-être du coup revenir juste sur on a vu qu'il y a des différences, des similitudes, mais sur pourquoi vous orientez vers la création de ce jeu-là, qu'est-ce que ça apporte. Je pensais aussi au septième continent, c'est des jeux narratifs différents. Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir comme sensation dans un jeu narratif? Il y a, bon, dans le jeu de plateau, que ce soit le jeu à l'allemand, de l'améritrage, on peut ressentir des émotions, que ce soit des émotions de choix, etc. Est-ce que c'est la volonté de faire ressentir d'autres émotions, des émotions qui se rapprochent peut-être de produits culturels comme la littérature, comme le cinéma? Moi, je pense par exemple à Time Story, Sherlock Holmes, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Mais, moi, c'est vrai que j'ai pas ressenti cette sensation-là de jeu avant Time Stories. Je comparais souvent à Dixit. Dixit m'a procuré vraiment une nouvelle émotion dans le jeu de société, ce qui est assez rare. Si je joue à Puerto Rico, je vais avoir des émotions, des sensations, mais pas de la même nature que ce qu'on peut ressentir dans d'autres médias. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir là-dedans? Est-ce que c'est une volonté aussi en écrivant ça de faire ressentir ce genre d'émotion? Peggy, peut-être en premier.
Flavien, je pense qu'il faut que tu essayes le jeu de rôle. Voilà.
J'ai essayé de temps en temps, mais.
Flavien, je pense qu'il faut que tu essayes Sherlock Holmes et Steve Constant.
Yann, une recommandation.
Oui, pareil, il faut qu'il laisse faire Sherlock. Et c'est aussi très intéressant de pouvoir discuter avec les autres autour de la table, et ça amène aussi une convivialité quand on n'est pas trop nombreux, parce que sinon après ça peut partir en guéguerre aussi, mais sinon ça amène une certaine convivialité de partager des idées pour trouver la solution. Et qu'on n'a pas forcément en lisant seulement un livre où on va juste lire l'histoire de l'auteur, on va passer un bon moment, mais on n'aura pas forcément le partage et la recherche en même temps.
Sinon, pour répondre vraiment précisément à ta question, alors tout ce qui est jeu d'enquête, il y a un plaisir intellectuel dans l'enquête. Effectivement, c'est un plaisir de résoudre quelque chose, résoudre un mystère, résoudre des énigmes, comme dit Yann. Et par contre, l'émotion, effectivement, l'histoire policière, qui n'est pas l'histoire policière, quand tu la reconstitues, c'est-à-dire quand tu as reconstitué par exemple les événements, pourquoi quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'elle était son mobile, c'est là qu'effectivement apparaît l'émotion normalement. C'est-à-dire que si ton enquête est assez bonne, c'était le cas des masques, où finalement il y a un final qui est assez chargé d'émotions, enfin il y a des choses qui se passent. Une bonne enquête, c'est qu'effectivement, au-delà de l'intérêt purement des énigmes que tu dois résoudre, du mystère, tu reconstitues l'histoire de quelqu'un, peut-être du mort, peut-être de la victime, peut-être du voleur, etc. Et t'arrives normalement à quelque chose où effectivement, si l'auteur a bien fait son boulot, t'as une certaine émotion. Pour sortir justement du côté purement mécanique, intellectuel du jeu d'enquête. Si t'arrives à lier les deux, effectivement, t'as quelque chose de valable. Et c'est valable pareil pour tous les médias. Ça serait un très bon scénario de jeu de rôle, comme un très bon roman, comme une très bonne série policière, etc. Il faut vraiment arriver à faire les deux. Mais voilà, l'histoire de l'enquête n'est pas l'histoire de l'enquêteur, donc c'est assez compliqué à faire. Voilà. Sinon, c'est vrai que les gens ont besoin d'histoire. C'est l'humain a toujours eu besoin d'histoire, quel que soit le support finalement.
ça a coupé la chic à tout le monde. C'était beau.
Merci. Tu vois, j'ai eu raison de prendre des cours.
Ouais, c'est bien. Ah, t'as pris des cours de parole aussi.
Après les cours d'écriture.
Non, je trouvais très intéressant ce que tu disais, Yann, sur la dimension en fait de partage. C'est vrai que dans le jeu de société, on dit toujours il y a société. Il y a plein de jeux dans lesquels finalement, effectivement, il va y avoir l'interaction entre les gens. Hein, il y a de la communication. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension particulière dans ces deux jeux où on va chercher à résoudre une énigme, mais donc on va vraiment échanger des idées. Ce qui se fait pas dans beaucoup de jeux, quoi. Échanger des idées, partager des choses, expliquer ce qu'on pense, du pourquoi, du comment, et amener des théories.
Moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir quand j'ai montré Time Story, quand il est sorti, que j'ai fait jouer des copains, les retours que j'ai eus de plusieurs, c'est qu'ils m'ont dit voilà, moi j'aime pas le jeu coopératif parce que souvent il y a quelqu'un qui prend les commandes et il y a ce phénomène de leader. Et dans Time Story, pour moi, voilà, c'est un vrai jeu coopératif parce que chacun a sa place. Il y a celui qui va peut-être plus faire un peu le clown en jouant son personnage. Il y en a un qui va résoudre telle énigme, un autre qui va plutôt, grâce à sa bonne mémoire, se souvenir où est tel élément. Il y a celui qui va réussir à prendre des notes parce qu'il faut prendre des notes, mais il faut savoir quoi noter.
Il faut relire les notes surtout.
Voilà. Et il y a vraiment cette idée d'équipe. Avec les compétences de chacun. Et moi, c'est un des plaisirs que j'ai dans le jeu de rôle, c'est de partager ensemble une aventure, une histoire. Alors c'est vrai que là, l'histoire, elle est écrite à l'avance, elle est quand même linéaire, mais elle va quand même permettre cette émulsion autour de la table où chacun fait partie de l'équipe, apporte son truc et on a réussi tous ensemble à passer un bon moment et puis à construire quelque chose, et on a l'impression d'avoir un souvenir d'une aventure partagée, quoi.
Et c'est finalement peut-être plus cet aspect-là qui rapproche ces deux jeux du jeu de rôle finalement.
Oui, c'est
plus
ça, c'est-à-dire que quand tu vois des rôlistes qui se rencontrent, ils vont se dire ah, tu te souviens quand on a fait ça, oui, t'étais con, pourquoi t'as attaqué machin, ou et quand les gens reparlent de leur partie de Time Stories, ben j'ai un peu les mêmes sensations, mais où tu nous emmenais là, tu savais bien que c'était un piège. Et voilà, ça crée des petites anecdotes et une aventure qui a été partagée entre les gens, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît.
Moi, c'est quelque chose que tu vis que dans, enfin, j'en ai rêvé, tu vois, Time Stories, mais réellement, hein, c'est pas, j'en ai rêvé depuis des années. Après une partie, tu y repenses le soir, le lendemain, tu te dis ah ça, etc. Et voir la nuit, tu pense le scénario dans ta tête et ce qui se fait avec les films, les bouquins, et alors que Puerto Rico, que j'adore, mais j'ai pas rêvé de Puerto Rico, quoi.
Non, mais faut vraiment que tu fasses du jeu de rôle.
Oui,
Flavien.
J'allais le dire. Mais parce que quand tu réfléchis à ta partie de trucs. Oh non, j'aurais
si,
pas
j'ai rêvé de Fear of Snow une fois.
Mais... tu peux aussi vivre ce genre de choses dans les escape rooms, c'est aussi le même genre de situation.
Moi, quand je joue beaucoup à des jeux de société avec des cubes en bois, je rêve de cubes en bois. Hein.
Et à Tetris, tu vois les pièces tomber aussi, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais juste, du coup, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au jeu de société, qui est un partage, et en le séparant un peu de d'autres médias comme le cinéma ou la littérature. Pour moi, justement, t'as ce partage aussi quand tu parles d'un même bouquin, et c'est pour ça que je les rapproche de ce genre de médias, c'est que quand t'as lu le même bouquin ou etc. ou de jeux vidéo ou de films. Toi, tu projettes ce que toi tu vois, et si tu parles avec quelqu'un qui a lu le même bouquin, pas en même temps, c'est la petite différence, c'est que le jeu de société, c'est en même temps autour de la table.
Ouais, la différence, c'est que c'est pas en même temps, c'est justement voilà. Ça. Et t'as pas forcément toujours des gens qui ont lu le même bouquin ou quoi, mais c'est clair, si c'est le cas, tu peux avoir
surtout
le même partage après
partage
en,
là,
discutant,
ouais,
en discutant.
Ouais, la grosse différence, quand même, c'est que dans un jeu, que ce soit vidéo, de jeu de rôle ou de société, t'as une part active. T'as participé à cette aventure. Même si elle avait été linéaire, écrite, t'as été acteur dedans à un moment et t'as fait avancer l'histoire, quoi.
Mais moi, je vois pas le. Enfin, c'est. Moi, quand je lis, quand je regarde un film, je suis actif aussi. Enfin, je me vois comme actif finalement. Alors, je suis pas acteur, non, je touche pas des. Non, mais je me vois comme. Je veux dire, comme je reçois et que j'interprète, etc., et que je vis des émotions, je suis pas passif. Je reçois pas juste quelque chose. Je transmets quelque chose aussi à l'écran. Il y a un lien qui se fait, qui est aussi là dans le jeu vidéo. Voilà. Et par exemple, si on parle de Fallout ou de jeux comme ça.
C'est du genre à dire attention derrière toi.
Non.
C'est toi le mec chiant dans la salle qui parle tout le temps.
C'est moi, c'est ça. Dans toutes les salles de France et de Navarre. C'est le mec qui parle tout le temps, mais ouais.
C'est toi qui vas voir les films plusieurs fois en disant, mais pourquoi il est tombé dans le piège encore une fois?
C'est ça. Je t'avais aidé pourtant la dernière fois. Qu'est-ce que tu fous? Mais non, mais c'est vrai que du coup, il y a ce côté-là qui est pas dans le jeu de société ou dans très peu de jeux de société, ce qui est dommage, mais voilà.
Bah, le rôliste, il refait le film et il va ailleurs.
Ouais, mais et le rôliste, quand il refait le film, il vaut mieux avoir vu le film parce que. Sinon, voilà. Bon, bref.
Et du coup, Peggy, t'as jamais eu envie d'écrire pour Sherlock, du coup?
J'y ai pensé quand la première fois que j'ai joué, mais non, je m'y suis pas mis au travail et je pense que c'est un énorme boulot d'écriture. Comme disait Stéphane, dans Sherlock, il faut aussi, à mon avis, avoir vraiment un style d'écriture d'un certain niveau. J'ai pas tenté l'expérience.
Et Stéphane, toi, c'est rigolo parce que tu dis ça demande trop de boulot. Et il me semble que t'avais dit pareil pour Time Stories. Toi, ça te tenterait d'écrire un truc sur Time Stories ou pas plus que ça parce que
Je sais pas. Le côté mécanique, toutes les mécaniques, ce qui plaît à Yann, moi, me déplaît. C'est-à-dire j'aime bien l'immédiateté de Sherlock justement et pas, j'ai pas envie de me poser des questions sur les probas avec les jets de dés ou sur est-ce que j'ai bien utilisé telle carte, tel système, tel tu vois. Je préfère un truc plus simple. Pour moi, c'est plus simple en tout cas.
Ouais, c'est une question de mode de pensée un peu quoi. Peggy, est-ce que tu travailles à d'autres scénarios pour Time Stories?
Oui.
Putain, là, j'ai failli rater la question.
mais vous n'en saurez mais... pas plus.
Ah bah non, bah non. Oh attends, là. J'ai failli rater la question, faut quand même lui répondre, s'il te plaît, quoi.
Non.
On peut rien savoir.
Ah, c'est top secret.
Ah, c'est, non, mais t'en es où, de ce processus-là?
Eh ben, c'est beaucoup plus difficile que la première
fois.
C'est ce
que t'avais
l'air de
dire tout à l'heure.
Stéphane disait tout à l'heure, surtout que bon, les conditions sont pas les mêmes.
Le cadre est un peu plus posé, quoi.
Voilà. Et puis, le jeu est sorti avec les règles et donc il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Mmh. Mais, voilà, j'avance doucement. Il faut que je commence les tests prochainement.
C'est toujours en coopératif ou bien?
C'est toujours du Time Story, mais c'est différent. Mais je peux pas vous en parler.
C'est la question qu'il fallait pas poser, d'accord.
Non, mais enfin, je sais pas si c'est. Enfin, effectivement, c'est la question un peu, je pense, qui traîne un petit peu dans les têtes de beaucoup de monde, quoi. Time Story, à la base, c'est un jeu coopératif. On se dit que ça pourrait ne pas l'être, quoi.
Ça peut tout à fait ne pas l'être.
Avec des contraintes, j'imagine, évidemment, toujours au système où, fatalement, les gens doivent rester dans la même
le
pièce.
Le principe de Time Story, c'est que, c'est un jeu, mais en même temps, c'est un jouet, c'est-à-dire qu'il y a un outil, et, on sait pas encore jusqu'où le jeu va pouvoir aller. C'est-à-dire que c'est aussi aux gens d'inventer des nouvelles mécaniques qui sont, qui n'ont pas été prévues. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses sur lesquelles, moi je travaille, Manu travaille et il faut tant qu'on n'aura pas testé, voir si ça fonctionne, on saura pas quoi. Donc moi le scénario sur lequel je travaille, ça fait longtemps et encore voilà, c'est plutôt de la mise en page et il faut après le tester pour voir si ça fonctionne et puis faire tous les allers-retours pour ajuster et puis les idées sont là, après voilà, faut voir comment ça va fonctionner.
OK. Et alors je me pose la question, si je suis toujours dans l'histoire de l'idée d'un Time Story non coopératif, en fait vous pensez il faudrait l'afficher quelque part, je pense, non? Enfin, les gens qui jouent à Time Stories, ils ont l'habitude de jouer à un coopératif, si d'un seul coup bouf on leur claque un scénario, on leur dit rien, il est compétitif, j'imagine qu'il y en aurait certains qui feraient la tête, quoi. Enfin, je sais pas, non, vous en pensez quoi? Ce sera affiché ou ce serait pas affiché, ou il faudrait garder le secret jusqu'au bout?
Moi j'ai aucune idée, mais ça pourrait être sympa que ça soit la surprise aussi. Donc après il y a peut-être des gens qui veulent mal le prendre, mais enfin,
il y a un truc qui commence en coop mais qui finit en compétitif
avec un félon, quoi.
Avec un félon, un si long.
De toute façon, a priori avec une telle mécanique on peut vraiment tout faire, il suffit de trouver comment,
ouais. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur du Time Story, du Sherlock Holmes?
Time Story, c'est cool.
Merci, on coupera en montage.
Je crois que c'est le premier fanboy officiel.
C'est clair. T'as été payé combien pour tous tes reportages sur Time Stories?
Beaucoup trop pour que j'en parle, à peu près, je pense.
Ils ont acheté ton silence, en plus.
Ouais, ouais. Au moins, ouais.
La Ferrari, c'est la tienne.
À côté de la Porsche de Peggy.
C'était mieux, finalement, d'en parler que d'être pigiste. Hein. D'ailleurs, oui, c'est intéressant. Tous les auteurs pour Time Stories sont rémunérés en tant que pigistes ou il y a...
Il me semble que oui. Hein. J'ai pas été voir les contrats des autres, mais c'était quoi. Moi, c'est ce qu'on m'a proposé et c'est ouais. C'est une des manières de faire. Si j'ai bien compris, qu'avait Asmodée, même quand ils ont fait du jeu de rôle, de ne pas avoir les problèmes de droits d'auteur qui étaient bloqués. Oui. Ils ont peut-être eu des mauvaises expériences, donc à chaque fois de payer les auteurs en pigiste, qui fait que ça libère les droits d'auteur et que voilà après c'est l'éditeur qui est propriétaire du contenu. D'accord. Du jeu. Et...
Mais c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société.
Oui, mais là les contrats sont plus proches de ce qui se fait en jeu de rôle qu'en jeu de société.
Non, je comprends bien, je provoque un peu.
Parce okay. que moi j'ai été payé sur mon contrat pour un scénario.
D'accord, très bien. Donc, ce qui n'est pas le cas sur Sherlock Holmes, on l'a compris, donc, du coup, Stéphane. Ok, très bien. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter?
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en laissant un commentaire sur notre site podcast.proxy-jeu.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés durant cette émission. Enfin, on va essayer de tout mettre. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Pensez aussi à nous noter sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout parlez de nous autour de vous.
Le chat.
Le chat. Pensez au chat de.
Faut qu'on en trouve un d'abord.
Ouais. Le plus dur. Le prochain épisode sera animé par Olivier avec un superbe invité.
Un saucisson lyonnais.
Voilà, un saucisson lyonnais. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Et en attendant,
jouez bien!
Travelo. Travelo. Une enquête qui se passe dans le bois de Boulogne à Paris en 1899.
Faites du jeu de rôle.
Sherlock Holmes, détective conseil, c'est mieux. Ça, c'est pour le bêtisier.